السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du 28 ذو القعدة 1428، ce qui concorde avec le 8 décembre 2007 بإذن عز وجل. Nous sommes toujours avec les règles du mariage, c'est le 8e cours, inshallah ta'ala. On va commencer vite par réviser avant de commencer le nouveau, inshallah ta'ala. On avait parlé des tuteurs en islam. On a dit que le tuteur, qu'aucune femme ne pouvait se marier sans un tuteur. Aucune femme ne pouvait se marier en islam sans un tuteur. Et qu'à chaque fois, il y avait une solution si elle n'a pas de tuteur. On avait dit que les tuteurs sont classés par ordre. On ne peut pas aller au deuxième si on ne passe pas par le premier, ni au cinquième si on ne passe pas par les quatre premiers. Et comme ça, ils sont classés par ordre, personne n'a le droit de sauter. Mais on va au premier s'il n'existe pas, au deuxième s'il n'existe pas, au troisième, et comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au dernier. On avait dit, bi'idhna azzawajal, le premier tuteur de la femme, de la musulmane, c'est son père. Naam, c'est son père. Si elle n'a pas de père, on passe au deuxième. On cherche si elle a un grand-père paternel. Non, on cherche si elle a un grand-père paternel. Si elle n'a pas, on cherche si elle a un fils. Si elle a un fils, il peut être son tuteur. Si elle n'a pas de fils, on va aller aux enfants du fils. Peut-être qu'elle n'a pas de fils, mais il a laissé des enfants. On va aller au fils. Naam. Au fils de qui? Du fils. Mais on ne va pas au fils de la fille. Si une femme avait un garçon et une fille, et les deux sont mariés, et le garçon a des enfants, et le garçon a un garçon, et la fille a un garçon, le fils de la fille ne peut pas être son tuteur. Mais le fils de son fils peut être son tuteur. Naam. Cinquièmement, s'il n'y a pas cela, on va au frère. On regarde, est-ce que la sœur a un frère consanguin, un frère de père et de mère. Si elle n'a pas de frère consanguin, on va chercher si elle a un frère de père. Un frère de père, c'est-à-dire son père s'est remarié et il a un enfant. Donc celui-là, c'est son frère de père. S'il n'y a pas, on va voir est-ce que son frère de sang a laissé un garçon. On voit est-ce qu'il y a un garçon du frère du sang. S'il n'y a pas, on va voir est-ce qu'il y a un garçon du frère du père, le frère paternel. Naam, c'est je crois le huitième. S'il n'y a pas, on voit est-ce qu'elle a un oncle du père et de la mère. S'il n'y a pas, on va au dixième. On cherche est-ce qu'elle a un oncle paternel, un oncle du côté du père. Naam. S'il n'y a pas l'oncle, on voit est-ce qu'il y a un enfant, c'est-à-dire un fils de l'oncle, l'oncle qui soit des deux côtés, père et mère. S'il n'y a pas, on va voir est-ce qu'il y a un fils de l'oncle paternel. Non. S'il n'y a pas d'autres Il dit, c'est, il n'y a pas de son, être son tuteur, c'est le, comment on appelle, c'est le gouverneur. Alors le gouverneur, on entend par gouverneur, le gouverneur musulman. Et ce n'est pas spécialement lui. On n'a pas le temps pour qu'il laisse la politique et il vienne marier X et Y, mais ceux qui travaillent sous son égide, comme les juges, les qadis, qu'on appelle qadis en arabe, ou bien il y a des gens qui spécialement marient, hein, ça s'appelle le mu'adhin al-shara'i, je ne sais pas s'il y a chez vous, mais ce sont des gens spécialement qui marient, ils sont faits spécialement pour cela. Ou alors, on va chez l'imam, car le imam travaille sous l'égide de qui? Sous l'égide du gouverneur. Et comme ça, on l'a vu la fois passée. La deuxième règle très importante que les gens doivent savoir, la deuxième règle très importante que les gens doivent savoir, c'est quoi? C'est que jamais un homme, s'il y a entre lui et la prétendante une femme, jamais cet homme ne peut être un tuteur. Comment cela? Lorsqu'une femme veut se marier, il y a quelqu'un qui va dire, par exemple, je suis son tuteur, je suis ton tuteur. Elle regarde, est-ce que entre elle et cet homme, il y a une femme? Par exemple, celui-là, c'est le fils de sa tante. Donc, il y a une femme entre lui et elle, il y a la tante. Alors, il ne peut pas la marier. C'est le fils de sa sœur à elle. Alors, il ne peut pas la marier. C'est le fils de... Et comme ça. À chaque fois qu'il y a une femme entre lui, c'est lui qui veut la marier, et elle, la prétendante, alors celui-là n'est pas un tuteur. Pour qu'il soit tuteur, il faut qu'il y ait entre lui et la prétendante un homme, pas une femme. Vous avez remarqué, quand on a commencé, on a dit qui? Son père. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? S'il n'y a pas de père. Le grand-père paternel. Ce n'est pas n'importe quel grand-père. Ce n'est pas le père de sa mère. Le père de sa mère ne peut pas la marier. Pourquoi? Parce qu'entre elle et son grand-père, il y a sa mère à elle. Celui-là, c'est le père de sa mère. Il ne faut pas qu'il y ait. Faut pas qu'il y ait un lien féminin, une relation de féminité. Faut pas qu'il y ait une femme entre le tuteur et entre la femme qui veut se marier. C'est une règle. Écrivez-la, apprenez-la. Non, beaucoup se trompent, beaucoup de gens se trompent et ne connaissent pas cette règle qui est primaire. Aucune femme ne peut la marier un homme qui quoi? Qui entre lui et la prétendante, il y a une femme entre eux. Non. Dès que quelqu'un te dit je suis ton tuteur, tu lui attends. Tu es qui par rapport à moi? Te dit je suis ton oncle. Ça, tu es mon oncle, mais tu es mon oncle maternelle. Entre toi et moi, il y a ma mère, il y a une femme. Donc tu ne peux pas me marier. Peux me marier mon oncle paternel. S'il y a entre moi et lui un homme, c'est-à-dire le frère de mon père, il y a mon père entre lui et il n'y a pas une femme. S'il y a une femme au milieu, il ne peut pas la marier. Ça, c'est la deuxième règle, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala, très importante qu'il faudrait connaître. Bien sûr, tout cela, après avoir marché les étapes, sans sauter les étapes. S'il y a mon père, mon grand-père ne peut pas me marier. S'il y a mon grand-père, mon fils ne peut pas me marier. S'il y a mon fils, mon petit-fils ne peut pas me marier. S'il y a mon frère consanguin, de père et de mère, mon frère paternel ne peut pas me marier. S'il y a mon frère paternel, son fils ne peut pas me marier. Et comme ça, on ne peut pas brûler les étapes. Et le dernier qui peut marier, c'est qui? C'est le gouverneur. S'il est qui? S'il est musulman. Car, si vous savez, je suis sûr que vous savez, Inch'Allah Ta'ala, vous savez, d'ailleurs je pose la question à Ismaël et à Muslim qui n'ont pas de point. Quelle est la femme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a épousée et dont son tuteur était un gouverneur? Quelle est la femme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a épousée et qui n'avait pas de tuteur? mais le gouverneur l'a mariée. C'est qui? J'ai posé la question, j'attends, inchallah ta'ala, votre réponse. Je ne sais pas, Cheikh Allahu A'lam, Jazak Allahu Khair. Celui qui a dit Allahu A'lam, c'est déjà une preuve qu'il a du ilm. Parce qu'il sait qu'on ne dit pas Allahu A'lam. Il sait qu'on dit Allahu A'lam quand on ne sait pas. Même réponse, Ismaël. Non, même réponse. Taïb, Jazak Allahu Khair, elle a la réponse. Vous avez dit comme on dit les anges. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mais je voudrais vous dire que la femme dont le tuteur a été qui? A été un gouverneur et a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il faudrait que vous sachiez que cette femme s'appelle Habiba. Son vrai prénom, c'est Ramla. C'est la fille de qui? De Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu. Elle est partie sous la pression des kuffars. Ils sont partis en Éthiopie. Et, Naam, sont partis en Éthiopie. Et son mari là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Son mari là-bas est devenu kafir. Son mari là-bas est devenu kafir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Elle était mariée avec qui? Avec quelqu'un qui s'appelle Ubaydullah ibn Jahsh. C'est le frère de qui? C'est le frère de l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Zaynab bint Jahsh. Celui-là, c'est son frère. Il s'appelle Ubaydullah ibn Jahsh. Il est devenu chrétien là-bas, on lui a donné beaucoup d'argent, et il est mort kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé, et celui qui l'a marié, c'est le gouverneur qui s'appelle qui? An-Najashi, le négus de l'Éthiopie. Il l'a marié, et c'est lui qui a donné sa dot aussi. Il a donné sa dot aussi, car le prophète alayhi wa sallam n'avait pas ce qu'il fallait donner, il lui a donné la dot. Et c'est lui qui a été son tuteur. Et c'est une preuve quoi, bien sûr? Une preuve que le négus était quoi? Était croyant. Était croyant. Vous savez qu'il était croyant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui, le hadith est dans le Bukhari, aujourd'hui est mort quelqu'un de bienfaisant. Dans un autre hadith, il a dit, Akhun lakum, votre frère, le négus, il a fait la prière de qui? La prière de l'absent sur lui. De ce hadith, les ulama de Ahl-Sunnah al-Jama'a ont pris quoi? Ont pris que il est possible que quelqu'un ne juge pas avec l'islam et n'est pas kafir. Ils ont dit, voilà le négus, comme a dit Ibn Taymiyyah, il a dit, il n'a jamais fait la prière. Et encore moins, il n'a jamais jugé avec l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui. Certains vont dire, mais il ne connaissait pas l'islam. C'est pour ça qu'il n'a pas jugé avec l'islam. Les autres vont répondre, si, il a connu beaucoup de l'islam. Car Ja'far lui a dit, Allah Ta'ala nous a envoyé un prophète. On adorait les statues, il nous a ordonné d'adorer Allah, de faire le bon voisinage, de faire la prière, de donner la zakat, de ne parler que du bien. Toute cette sharia, le négus ne l'a pas appliquée. Ni prière, ni rien. Il n'a rien fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? A fait la prière sur lui. Reste que quoi? Reste que les takfiriyoun croient que la sharia, c'est seulement couper la main et fouetter celui qui fait la zina. Les takfiriyoun, pour eux, la sharia, c'est seulement fouetter et lapider, couper les mains. Ce n'est pas aussi appliquer tout ce qu'il y a dans le Coran. Non, c'est seulement si le gouverneur fait ces choses, il est musulman. C'est pour ça, chez eux, si le gouverneur fait toutes les choses, sauf qu'il ne coupe pas la main et il ne lapide pas, il n'est pas quoi? Il n'est pas croyant, c'est un kafir. C'est pour ça que les takfiriyoun, quand Khomeini est venu, en 1980 ou la 70, je ne sais pas quand, il a dit, je vais appliquer le jugement d'Allah, c'est-à-dire couper les mains et fouetter, ils l'ont tous suivi. Ils ont dit, vive Khomeini, Dawla Islamia, il va faire l'islam, vive Khomeini, subhanallah al-azim. Alors que Ahl-Sunnah ou Jama'a disent quoi? Disent que quelqu'un qui n'applique pas la charia, mais qui la reconnaît, il est toujours croyant, même s'il ne l'applique pas. Et quelqu'un qui applique la charia, il l'applique, mais il ne la reconnaît pas comme Khomeini, c'est quelqu'un de kafir. Subhanallah, regardez la différence entre un sunna et le takfiri. Le takfiri, pour lui, la charia, c'est seulement couper les mains et ce qu'on appelle le houdoud. Ah, celui-là, inshallah, il lapide, classe, il a appliqué la charia. Alors que la charia, c'est tout ce qu'il y a dans le Coran. Et la charia ne s'applique pas seulement à qui? Au gouverneur. Moi-même qui vous parle. Vous qui m'écoutez, si vous n'appliquez, pas la charia, vous ne l'appliquez pas, c'est-à-dire vous ne la reconnaissez pas, vous êtes des kofars. Si une sœur d'entre vous dit « je ne reconnais pas le djilbab », elle est devenue kafira. Si un frère entre vous dit « je ne reconnais pas le siwak », je ne le reconnais pas, il est devenu kafir. Naam, ce n'est pas seulement la charia, mais tout ce qu'a fait descendre Allah Ta'ala, quiconque ne juge pas avec l'islam et ne reconnaît pas ces choses, il est kafir. Al-Muhim, laissons ça à son moment, inshallah ta'ala. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va passer au nouveau. Au nouveau, c'est quoi? Naam, c'est la shahada. La shahada, le témoignage. Quand on va se marier, les témoins et yani leurs conditions. Je voudrais vous dire que le prochain dars, inshallah ta'ala, dans les règles du mariage, sera les femmes qui sont interdites. Yani, quelles sont les femmes qu'un homme ne peut pas épouser et quels sont les hommes qu'une femme ne peut pas épouser. Mais l'autre cours qui viendra après le prochain, Inch'Allah Ta'ala, sera plus important. Ça ne veut pas dire que le prochain n'est pas important. Il est très important que tu saches avec qui tu peux te marier et qui tu ne peux pas. Jusqu'à présent, des gens ne savent pas. Ils te disent par exemple, j'ai allaité de la mère de X. J'ai allaité, c'est pas, on ne dit pas allaité, non. Allaiter, ça veut dire donner du lait. Bon, il dit, moi, j'ai bu le lait de telle femme. J'ai bu le lait de telle femme. Est-ce que je peux me marier avec sa fille? Moi, j'ai bu le lait de cette femme, X. Est-ce que je peux me marier avec sa fille? Ou bien, moi, j'ai bu le lait de X, des femmes. Est-ce que son fils, qui est mon frère de lait, peut se marier avec ma sœur? Beaucoup ne connaissent pas la réponse. Pourtant. Mais le plus important sera le dars qui viendra après celui-là, parce qu'il parlera de quoi? Quels sont les défauts qui peuvent annuler le mariage? Certains gens croient que si on se marie, khlas, on a quoi? On a la cour de cou. Je dois rester toute ma vie avec cet homme et moi qui suis homme, je dois rester toute ma vie avec cette femme. Il ne sait pas qu'il y a des défauts qui, s'ils existent, ou bien le conjoint me les a cachés, ou bien maintenant ils ont fait apparition, il a commencé à faire certaines choses, certains défauts. Vu ces défauts, je peux annuler le mariage. Beaucoup ne savent pas cela. Et ils souffrent leur vie. Ils restent avec des clochards. La femme, elle vit avec un clochard et elle ne sait pas qu'elle peut annuler le mariage. Elle te dit, j'ai peur, je vais aller en enfer. Non, le prophète a dit, quiconque les femmes demandent le divorce, elle va en enfer. Elle ne va pas sentir l'odeur du paradis, etc. Et elle vit avec un clochard à cause de quoi? Et un drogué, et peut-être même un homosexuel, à cause de quoi? À cause du djinn et de l'ignorance, parce qu'elle ne connaît pas son islam. Et c'est déjà un châtiment. Le fait de ne pas apprendre la science, tu vis dans quoi? Dans le châtiment. Voilà, si tu avais la science, tu aurais su que Allah Ta'ala t'a fait une issue. Tu n'as pas suivi la science, alors, yani, reste dans des problèmes. Al-Muhim, al-Yom, inshallah Ta'ala, al-Shahada, le témoignage. La quatrième condition pour qu'il y ait mariage, il faut quoi? Il faut qu'il y ait les témoins. Il faut qu'il y ait les témoins. Allah Ta'ala dit dans le Coran, je n'ai pas eu le temps de traduire en français, il a dit dans le Coran, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. الطَّلَاق, deuxième verset, sourate الطَّلَاق, sourate divorce. Il a dit, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, s'ils arrivent à leur fin, نعم, qu'ils parlent de la période de viduité, أَمْسِكُهُنَّ, gardez-les, نعم, ou bien, séparez-vous d'elles, c'est-à-dire, لَكِنْ بِمَعْرُوفٍ, il est interdit en islam de garder la femme pour lui faire du mal. Naam, je ne veux pas la divorcer juste pour lui faire du mal. Naam, c'est interdit en islam. Tu ne veux plus d'elle, tu la libères pour qu'elle aille faire sa vie. Et peut-être qu'Allah Ta'ala yani, va lui donner une beaucoup, beaucoup plus belle vie que celle qui était avec toi. Laisse-la, laisse-la. Allah Ta'ala va lui ouvrir les portes. Libère-la, libère-la. Naam. Il a dit, « Wa ashhidu dhawai adli minkum » et faites témoigner deux personnes de vous qui soient intègres. Deux personnes qui soient intègres. Les ulama ont dit, si Allah Ta'ala nous a demandé de faire témoigner deux personnes quand on divorce, alors ils ont dit, par prédominance, on doit aussi faire témoigner d'eux quand on se marie. Naam. Si, pour divorcer, je dois faire cela devant deux témoins, alors, par prédominance, je dois faire le mariage devant deux témoins. Puis, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Subhanallah al-Azim. Naam, le divorce V2. Tayyib, je voudrais vous dire que le fait de faire témoigner deux personnes pour le divorce, la plupart des ulamas disent c'est une sunna. Certains disent c'est obligatoire, mais la plupart disent c'est une sunna que quand quelqu'un divorce, il fait témoigner deux personnes. Et d'autres disent c'est une chose obligatoire. Mais il y a une secte qui s'appelle les Rawafid, les chiites. Ceux-là, ils disent quoi? Ils disent c'est une condition. C'est-à-dire que si quelqu'un divorce et qu'il n'avait pas deux témoins, alors son divorce est nul. Il peut revenir et reprendre sa femme. Son divorce est nul. Mais cette chose n'est pas vraie. C'est seulement le madhab, le rite des chiites. Al-Sunna, on dit non. On dit c'est ou bien sunna ou bien une obligation. Mais ce n'est jamais une condition. Quant à, ça c'est quand on divorce. Quant à lorsqu'on se marie, naam, c'est une condition. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nikaha illa bi wali wa shahidi adl » Il a dit « Il n'y a pas de mariage sans tuteur ni de témoin intègre. » Il n'y a pas de mariage sans tuteur ni de témoin intègre. Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, est du genre qui ne voit pas que les deux témoins pour le mariage sont une condition. Il ne voit pas qu'ils sont une condition. Pourquoi? Il est excusé, rahimahullah. Parce que pour lui, il dit le hadith qui dit cette chose est faible. Mais en fait, le hadith est sahih. Il est sahih. Il a été authentifié dans plusieurs livres par Cheikh al-Albani, rahimahullah, que le hadith est sahih. Et l'avis le plus juste, que quiconque des femmes se marie sans deux témoins, son mariage n'est pas accepté. Si elle s'est déjà mariée et elle ne savait pas, naam, elle doit refaire l'acte. Refaire l'acte, yani c'est très facile de le refaire. Et de faire venir deux témoins pour qu'ils témoignent. On va, inshallah ta'ala, citer maintenant quelles sont les conditions de ces témoins. Qui va témoigner? Premièrement, la femme ne témoigne pas dans l'acte de mariage. La femme ne peut pas témoigner. Car il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait deux hommes. Non. Il faut que ça soit deux hommes. Et deux hommes qui remplissent aussi d'autres conditions. D'autres conditions, à part quoi? À part le fait que ce soit des hommes. Mais aussi, il faudrait qu'ils remplissent aussi d'autres conditions. Non. Quant aux femmes, elles ne peuvent jamais témoigner dans le mariage, dans le divorce, dans les choses qui ont rapport avec l'argent. Elles ne peuvent pas. Non. Si quelqu'un, par exemple, a volé, non, quelqu'un a volé, et non, celui qui a atteint, par exemple, deux femmes, en preuve que voilà, C'est cette personne qui m'a volé. On ne peut pas lui couper la main. On ne peut pas lui couper la main parce que pourquoi? Il n'a pas rapporté des témoins qui étaient des hommes, mais il a rapporté des femmes. Naam. On peut le forcer à ce qu'il rende l'argent à celui qui l'a volé. Mais on ne va pas lui couper la main parce qu'il n'a pas ramené des femmes. Pardon, il n'a pas ramené des hommes. Mais la femme témoigne dans les choses qui lui sont propres. Les choses qui, par exemple, pour dire que est-ce que cette femme est vierge ou elle n'est pas vierge. Elle va être visitée par une femme. Et elle témoignera. Elle dit, je témoigne que cette femme est vierge, par exemple. Ou bien elle témoigne dans l'allaitement. Elle dit, j'ai allaité X avec Y. Ce sont des choses que les hommes ne peuvent pas connaître. C'est pour ça que elle peut y aller témoigner dans cette chose. On revient à ce qu'on disait, le témoin. Il faut deux témoins pour que quelqu'un puisse se marier. Certains ulama ont dit que il suffit du i'lan. I'lan, vous savez ce que c'est l'i'lan? Le fait de, comment on dit ça? Le fait de montrer le mariage. L'annonce, naam. Le fait d'annoncer le mariage et de frapper avec le tambour, naam, et de faire la fête. Certains ont dit, et ça c'est Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmaullah, qui a choisi cet avis. Il a dit, s'ils font l'annonce et ils font la fête, etc., alors ils n'ont pas besoin des deux témoins. Ils ont dit alors, ils n'ont pas besoin des deux témoins. Mais Cheikh Allah Ibn Uthaymin, quoique il ait dit que ce n'est pas une condition des témoins, mais ici, à la fin, il revient, il dit, mais de préférence, pour sortir des problèmes et sortir des divergences des ulama, il a dit, il vaut mieux qu'il y ait les deux témoins. Et nous, on dit, le hadith est sahih, et comme il a demandé, comme condition, il a demandé le tuteur, il a demandé aussi les témoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nulle femme ne peut se marier si elle n'a pas quoi? Elle n'a pas le tuteur et qu'ils n'ont pas fait deux témoins, ils n'ont pas fait venir deux témoins le jour où yani, la fille a été, yani, disons, donnée à l'homme. Naam. Tayyib. Pourquoi que Allah Ta'ala, quand il a cité dans le Coran, il a cité que quand on allait divorcer, il fallait deux témoins. Pourquoi? Pourquoi spécialement quand on divorce aussi? Quand on divorce aussi, parce que l'homme peut la divorcer, ensuite dire, non, c'est toujours ma femme, je n'ai jamais divorcé, donnez-moi la preuve. Mais s'il y avait les deux témoins, ils vont venir et dire, non, ce n'est plus ta femme. Ce n'est plus ta femme, tu l'as divorcée. Car sinon, il ne va pas la laisser se marier. Il va dire non, je ne l'ai pas divorcée. Alors qu'il a fait seulement cette chose entre lui et elle. Non, il n'a pas fait assister deux témoins. Il n'y a aucune preuve qu'il a divorcé. Non, c'est pour ça qu'on demande les témoins pour que, par exemple, elle puisse se marier. Pour que, par exemple, elle puisse se marier. Non. Donc, il a dit, il y a quatre sortes de mariage. Première sorte, où il y a témoignage et annonce. Si dans un mariage, il y a témoignage, il y a eu les deux témoins et il y a eu l'annonce. Celui-là, sûrement, c'est le meilleur mariage. Il y a eu les deux. Il y a eu le témoignage qui se basant sur le hadith sahih, et il y a eu l'i'lan, l'annonce et le tambour qui sont cités dans un hadith sahih. C'est le meilleur des mariages. Ensuite, il y a le deuxième. Deuxième. An yakuna ishhad bila i'lan. Qu'il y ait des témoins, mais il n'y a pas l'annonce du mariage. Il a dit, Cheikh Lahmou, fa fi sihhatihi nazar. C'est un mariage, yani, un peu louche. Naam. Ce n'est pas, il dit, yani, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable à 100%. Hein. Il dit, ce n'est pas valable. Pourquoi? Il a dit, li'amr. Car le prophète a dit, annoncez ce mariage et frappez le tombeau. Celui-là, il n'a pas annoncé. Et c'est la zaniya et le zani qui font cette chose en cachette. Quelqu'un qui fait la zina, il l'a fait en cachette. Celui-là, si ce n'était pas une zina pour lui, alors pourquoi il ne l'a pas annoncé? Il a peur de qui? Le fait qu'il ne veuille pas annoncer les deux, ça veut dire qu'il y a du louche dans leur mariage. Sinon, le mariage, tout le monde est content. Et tout le monde dit à l'autre. Et on téléphone, et on envoie des lettres. Et ceci et cela. Chacun est content, il rit. La fille, elle rit, elle est contente. Bon, maintenant, c'est le contraire. Ceux-là, ils cachent. S'ils cachent, c'est qu'il y a du louche dans leur mariage. Naam. Troisième sorte. Il y a annonce et il n'y a pas de témoignage. Il y a l'annonce, ils ont annoncé partout, masha'Allah, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas eu de témoignage. Cette sorte, le mariage est valable. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah, le mariage est valable. Et d'après d'autres, ce mariage n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les deux témoins. Et la quatrième sorte, un mariage où il n'y a ni témoignage, ni annonce. Il a dit, celui-là, c'est un mariage nul. Non, si dans un mariage, il n'y a ni annonce, ni témoignage, ce mariage, il ne faut pas y en ait, avoir de doute que c'est un mariage nul. Non. Quelles sont les conditions des deux témoins qui doivent venir témoigner? Premièrement, Adlein. Il faut que les témoins soient intègres, fiables. Et mustaqimina dinan wa muru'atan. Il faut que ces deux témoins soient bien, yani, conformes dans le din et conformes dans ce qu'on a appelé une fois le comportement. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé aussi avec autre chose. Non. Il faut que les témoins soient conformes dans le din et conformes aussi dans quoi? Dans le moro'a, la droiture et le sens de l'honneur. Non. Dans le chemin de la droiture et le sens de l'honneur. Non. Vous savez que pour que quelqu'un soit intègre dans le din, il faudrait quoi? Il faudrait que ce témoin ne fasse pas les grands péchés. Non, les grands péchés, il ne faut pas qu'il les fasse. Si on voit par exemple que le témoin a une bague en or ou bien une chaîne en or, ça y est, ce n'est plus accepté comme témoin parce que c'est un pervers. Un homme qui met de l'or est un pervers. Non, donc il faudrait qu'il ne fasse pas les grands péchés. L'or, la bague d'or pour l'homme, c'est un grand péché. Non. Alors, il faudrait quoi? Il faudrait que, yani, dans leur... Mais ici, il dit, mais seulement dans l'apparence. Seulement dans l'apparence. C'est-à-dire que, on ne va pas fouiller leur passé, ni leur demander, est-ce que vous faites telle chose? Pas. Non. Nous, l'essentiel, c'est deux témoins. Non, il les a ramenés de la mosquée ou je ne sais pas d'où. Je les vois. Apparemment, ils paraissent ne pas transgresser les lois d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que le témoin doit porter la barbe. Non, doit porter la barbe. Pourquoi? Parce que je me fie, les ulama ont dit, on se fie à son apparence. On ne va pas demander ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On regarde l'apparence, mashallah, il a la barbe. Il n'a pas aucune chaîne d'or, ni bague d'or, ni il a fumé la cigarette. Mais on ne va pas lui demander, est-ce que d'habitude tu fumes ou tu ne fumes pas? Est-ce qu'avant de rentrer, tu avais une bague d'or et tu l'as enlevée? On ne lui demande pas ces choses. L'islam ne cherche pas les cœurs, ne fouille pas ce qu'il y a dans les cœurs. On se suffit aux apparences, c'est tout. Non. Car si on allait faire, on veut faire comme fait Ousmane Redak Colombo, si on veut faire des investigations, on veut faire comme la police, on va chercher, on va trouver plein de fautes chez les témoins. Et alors, aucun témoin ne sera apte à marier. Si on fait le détective, aucun témoin n'est apte à marier. C'est pour ça qu'on demande selon l'apparence. Attention, ne fume pas et ne porte pas de bague d'or et ne sois pas à son abat ce jour-là. Mais maintenant, ce que tu fais, je ne sais pas, moi, je ne cherche pas à comprendre ce que tu fais quand tu n'es pas là le jour du témoignage. Moi-même, sauf s'il est connu, bien sûr. Si cette personne est connue que elle est perverse et seulement elle fait cette chose pour juste le mariage, elle a laissé la barbe, etc. Ça, bien sûr, il ne faut pas l'accepter. Mais si on fait venir une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on ne connaît pas, on l'accepte par son apparence et on ne fouille pas. Et on fouille pas. Deuxièmement, vakareyn. Il faut que les témoins soient des hommes. Aucune femme ne peut être témoin pour le mariage. Il faut que les témoins soient des hommes. Troisièmement, si quelqu'un de vous peut écrire, il écrit conditions des témoins. Conditions des témoins, premièrement intègre, deuxièmement sexe masculin. Troisièmement, mukallafain, c'est-à-dire il faut qu'il soit pubère. Naam. Pubère et en même temps raisonnable. On peut être pubère, mais on peut être attardé mental. Naam. On peut être pubère et on peut être fou. On peut être pubère, on peut être quelqu'un de bête, de stupide, d'idiot, qui ne comprend pas ce que les gens disent. Tu es venu témoigner, c'est pour que, si demain on a besoin de toi, on te demande ton témoignage. Et tu viens et tu dis, voilà, je jure par Allah que j'étais présent, que j'ai entendu que X a demandé au père Y sa fille. Je me rappelle même qu'elle s'appelle par exemple Aïcha ou bien Rachida ou bien je sais quoi, je me rappelle même. Naam. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est pas doué de raison, à quoi ça sert? On va lui demander, est-ce que tu témoignes? Il va dire, je ne sais pas moi ce qui s'est passé. Je me rappelle avoir mangé des gâteaux. Masha'Allah, j'ai mangé beaucoup de gâteaux ce jour-là. Ah, les tchereks, hein, j'ai mangé beaucoup. Naam. Subhanallah. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. S'il y a eu mariage ou là, il y a eu divorce, ou là, c'était aqiqa. Moi, j'ai demandé les gâteaux, on m'en a donné, masha'Allah. Celui-là, quoi, ça sert qu'il vient témoigner. Astaghfirullah. Mukallafin, donc, pubère, et doué de raison, bi'idna azzawajal. Sami'in, sami'in, audion. Naam. Et c'est très clair. Car s'ils n'entendent pas, comment alors peuvent-ils comprendre ce qui s'est passé pour venir témoigner un jour? Naam. S'ils n'entendent pas, comment peuvent-ils venir un jour témoigner que X s'est marié avec Y? Ils n'ont rien entendu. Naam. Cheikh ici, il a dit, une seconde, il a dit, et d'après, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il dit d'après celui qui a écrit le livre, il a dit, même s'il voit et que ils n'entendent pas, le mariage n'est pas accepté. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen a réfuté ce dire et a montré que le vrai, c'est que s'il voit et avec les yeux, naam, ils ont lu par exemple quelque chose, par exemple, le père a écrit sur une feuille, je te donne ma fille Y. Et ils ont lu la feuille, même s'ils n'entendent pas, ils ont lu la feuille. Ensuite, ils l'ont donnée au prétendant qui a écrit, j'ai accepté. Et ils l'ont vu aussi qu'il a écrit, j'ai accepté. D'après le mariage est nul. Mais d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, le mariage est accepté. Et vous remarquez que c'est l'avis le plus juste. Pourquoi? Parce que le fait de voir et d'avoir lu, ils ont compris. Ce n'est pas une condition nécessaire, il faut que j'entende. Non, ce n'est pas obligé que j'entende. L'essentiel, c'est que je comprenne. Et on peut comprendre par le regard, comme on peut comprendre par l'audition. Non. Comme je peux comprendre lorsque j'entends, je peux comprendre aussi lorsque je vois. Et combien de gens qui n'entendent pas sont très intelligents, sont plus intelligents que des gens qui entendent. Vous savez cela. Vous savez qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Non, ils voient seulement. Mais sont très très intelligents. Peut-être beaucoup plus que certains qui entendent. Non. Ensuite, il a dit, autre condition, natiqain. Natiqain, c'est-à-dire, il faut qu'il parle, qu'il ne soit pas des muets. Des muets. Mais Cheikh Lahmo ici dit que, il dit, d'après celui qui a écrit le livre, que s'ils sont muets, même s'ils comprennent l'écriture, le mariage, le témoignage n'est pas accepté. Cheikh Lahmo dit, mais cela n'est pas vrai aussi. Attendez une seconde, je suis avec vous avec la batterie. Il reste un peu seulement de la batterie. Une seconde, inshallah ta'ala. نعم السلام عليكم ورحمة الله فيه صوت الحمد لله الشيخ لاحمو a dit ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai même s'ils sont muets aussi et ils ont bien compris ce qui s'est passé seulement en lisant des feuilles par exemple نعم il a dit leur témoignage est valable نعم tout ça pour que vous sachiez que sachez que si jamais quelqu'un yani dans un mariage vous voyez qu'il y a des témoins qui sont par exemple yani aveugles ou bien qui sont muets ou bien qui n'entendent pas que leur quoi leur témoignage est valable mais à condition s'ils sont aveugles il n'y a pas de problème parce qu'ils entendent et maintenant s'ils sont muets et peut-être sourds aussi il faudrait quoi il faudrait qu'on leur écrive sur une feuille. Voilà, X a demandé la fille de Y et Y a accepté. A accepté la fille de X. Non, mais écoutez, qu'il lise ça. Non. Sinon, c'est comme s'ils n'étaient pas présents. S'ils étaient là, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont ni entendu, ni lu quelque chose. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas témoigner. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِدِينَ. Et on a témoigné de ce qu'on savait. Et on a témoigné de ce qu'on savait. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas témoigner d'une chose qu'il ne connaît pas. Et dans un autre verset, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sauf ceux qui ont témoigné avec la vérité tout en connaissant. Ils connaissent la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois. Je ne sais pas si en France, ça se passe chez, comme ça se passe chez nous en Algérie. En Algérie, des fois tu es à la mairie. Ensuite, vient une femme et elle commence à te supplier. Ya Foulan, Billah Ali Kada, témoigne avec moi que je n'ai pas de maison. Témoigne avec moi que je ne travaille pas. Témoigne avec moi que mon fils est mort. Et des choses comme ça. Naam. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il était interdit de témoigner avec une personne pareille. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Et on a témoigné de ce qu'on sait seulement. Mais moi, je ne sais pas si cette femme, vraiment, si son fils est mort, vraiment, si elle ne travaille pas, vraiment, si elle n'a pas de maison. Elle te dit, viens témoigner avec moi que je suis divorcé. Témoigne avec moi que je n'ai pas de maison. Subhanallah l'Azim. Tu n'es ni ma voisine, ni ma tante, ni je te connais, ni je t'ai vu. C'est la première dans ma vie que je te vois. Comment puis-je témoigner d'une chose pareille? Et à part que chez Allah, c'est un péché, pour avoir témoigné sans avoir de connaissance. Deuxièmement, tu risques un grand risque de te faire retrouver en prison. De te faire retrouver en prison si jamais elle a menti. Si jamais elle a menti et qu'on va la découvrir. Porte aux roses et qui c'est le témoin, c'est X. Tu as été écrit ton nom avec le numéro de la carte d'identité. Et tu te présentes pour faux témoignage. Et c'est pas la peine là-bas de dire je ne savais pas, etc. Car le canon des koufars et le canon des musulmans aussi ne protège pas quelqu'un qui est, comme on peut dire, un idiot, non, qui ne connaît pas et qui ne connaît, qui n'est pas yani, assez intelligent. Celui-là, il n'est pas protégé. Taïb, ensuite, il a dit, et il a dit, il faudrait aussi, d'après d'après celui qui a écrit les livres, il faudrait aussi que les témoins ne soient ni les ascendants du mari, ni les descendants. Pas qu'ils soient des ascendants de la prétendante, ni des descendants. Pour que vous compreniez, d'après ce qu'a dit celui qui a écrit les livres, si le jour du mariage, on va demander à l'homme où sont les deux témoins, il va dire, c'est celui-là, mon père et mon grand-père. Non, ce sont qui? Ce sont les ascendants. Ou bien il va dire, mon témoin, c'est mon fils. Et l'autre, par exemple, le deuxième fils. Ce sont les descendants. D'après celui qui a écrit les livres, il dit ce mariage est nul. Ou plutôt, les témoins ne sont pas acceptés. Pourquoi? Ce sont des ascendants ou bien des descendants à l'homme qui veut se marier. La même chose pour la femme. Il a dit, si on lui dit, on dit où sont les témoins, elle va dire, voilà les témoins. Mon père, par exemple, et mon grand-père. Ou bien mon fils et l'autre. Le mariage est nul. Pourquoi? Parce que les témoins ici sont des ascendants ou bien des descendants, soit du côté du prétendant ou du côté de la prétendante. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah a dit, le plus juste, apprenez cela, le plus juste, c'est que les ascendants et les descendants, qu'ils soient du côté du prétendant ou du côté de la prétendante, peuvent être des témoins. Peuvent être des témoins. Naam. L'homme, quand il veut se marier, il peut prendre comme témoin, par exemple, son père et son grand-père. Ou bien il a deux fils. Il prend ses deux fils comme témoin. La même chose pour la femme. Elle peut prendre des ascendants comme témoins et des descendants. Et mieux encore, elle peut prendre, par exemple, deux frères. Naam. Et l'homme peut prendre deux frères. Deux de ses frères, il les prend comme témoins. Donc, ceux qui croient, les gens qui croient que les témoins doivent spécialement être des étrangers, c'est faux. Il n'y a aucun délit dans ce sens. L'essentiel, c'est que il y ait deux hommes qui remplissent les conditions. Qu'ils soient de ma famille ou pas de ma famille, ou de la famille de la femme ou pas de sa famille, ou son oncle, ou je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir. C'est accepté. Naam. Tayyib. Maintenant, il a dit, وليست الكفاءة هي الدين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. نعم. Il a dit, maintenant on va rentrer dans quelque chose de nouveau, بإذن الله عز وجل. Il a dit, on a terminé avec les témoins, il a dit, نص على ذلك لأن العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة. Certains ulama ont dit que l'aptitude, ce qu'on appelle en arabe le kafa'a, c'est une condition nécessaire. Je ne sais pas en français, cher. Je dis à peu près l'aptitude. Il est apte. C'est-à-dire, vous allez trouver peut-être ça vous seul. Le kafa'a, ça veut dire que il remplit, disons, les conditions. Il remplit, mais l'aptitude a dit capacité. Capacité, naam. Aptitude, capacité, ça. Mais c'est quoi la capacité en islam? Attention, dans deux choses. Dans deux choses. Premièrement, il a dit, dans le din, dans la religion, ou un mansab. Naam, mansab, c'est. Attendez, je vais vous expliquer, inshallah ta'ala, mot, yani phrase par phrase. Attendez. Il a dit ici, din, il faut qu'il soit apte dans le din. L'homme doit être apte dans le din et la femme doit être apte dans le din. Ce n'est pas seulement l'homme. Il faut que les deux soient, yani, et la chose. Bon, ce n'est pas obligé que les deux soient dans le même degré. C'est impossible. Toujours, ou bien la femme est beaucoup plus impliquée dans le din que lui, ou bien lui, il est beaucoup plus impliqué qu'elle. ou bien lui, il est beaucoup plus impliqué, par exemple, dans les nawafil, elle, dans les siyam, lui, dans le qiyam al-layl. Ça dépend. Non. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que ils font les choses obligatoires. Et les deux sont loin des choses qui sont des péchés. Naam. C'est-à-dire, فليس شرطا أن يكون الزوج مؤدين لجميع الفرائض مجتنبا جميع النواهي فيصح التزويج بفسخ. نعم. Il a dit au sahih أن الدين شرط. Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit, الصحيح, le plus vrai, c'est que la religion est une condition nécessaire pour عقد النكاح. عقد النكاح. نعم. Pour le jour du mariage, on veut faire un acte de mariage, le pacte هذا. La religion du prétendant et du prétendante, le fait qu'ils aient la religion, qu'ils soient religieux, il a dit, est une condition nécessaire. Naam. فإذا كان الزوج معروفا بالزنا. Il a dit, par exemple, si l'homme qui veut se marier avec elle est connu que c'est quelqu'un qui fait la zina. C'est connu que c'est quelqu'un qui fait la zina. ولم يتوب. فَإِنَّهُ لَا يَصِحْ أَنْ يُزَوَّجْ. Et il n'a pas fait le repentir, alors il n'est pas permis de le marier. Et si on le marie, son mariage est nul. Naam. Si quelqu'un sait que ce prétendant, c'est quelqu'un qui fait la zina, ensuite il veut le marier, même s'il le marie, il le marie, il lui dit, là, je t'ai donné la fille, ceci, cela, le mariage est nul. Car c'est Allah Ta'ala qui légifère. C'est pas l'homme. C'est pas moi qui suis libre. Te dire, là, j'ai rendu le mariage valable. C'est pas moi, c'est Allah Ta'ala qui accepte le mariage ou bien le rend nul d'après les conditions qu'il a données. Si on remplit les conditions, il est valable, on ne les remplit pas, il est nul. Naam, personne ne peut yani, rendre le nul valable ou bien annuler le valable. Naam. Maintenant, on veut le marier avec une femme qui est connue qu'elle fait la zina. Et elle n'a pas fait la tauba. La yasih zawaj. On ne peut pas la marier. La min zina ou la min ghayri. Ni de la zina, parce qu'elle faisait la zina, ni aussi des grands péchés. Naam. Il a dit maintenant, vous avez remarqué, à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Lahmou, à chaque fois il dit, et il n'a pas fait la tauba. Et elle n'a pas fait la tauba. Pourquoi? Parce que tout le monde fait des fautes. Mais est-ce qu'après la faute, il y a eu la tauba ou il n'y a pas eu? C'est ça la différence entre celui qui est sincère et celui qui est menteur. Celui qui est menteur, il fait la faute et il continue. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il se trouve dans la tombe. Naam. Mais celui qui est sincère, il a fait la faute. Mais quand on l'a rappelé, on lui a dit, regarde ce que tu as fait, c'est un grand péché. On lui lit le verset, on lui dit le hadith. Il a le cœur qui tremble et il commence à pleurer. Il dit, je jure par Allah que à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ce péché. Allah Ta'ala est pardonneur. Non, Allah Ta'ala est pardonneur. Mais ce n'est pas comme font les gens. Ils font le péché et ils savent que c'est haram et ils ne se repentent pas et ils disent, Inna Allah ghafurun rahim. Allah Ta'ala est ghafur, Allah Ta'ala est pardonneur. Et ils oublient qu'Allah Ta'ala a dit, Inna Allah shadidul iqab. Celui qui a dit je suis pardonneur, il a dit, j'ai un châtiment douloureux. Pourquoi tu cites le premier verset, tu ne cites pas le verset où il dit j'ai un châtiment douloureux. Naam. Et n'oubliez pas aussi qu'Allah Ta'ala a dit, Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana. Et je suis miséricordieux, celui qui a fait la tauba, et a cru, a fait quelque chose de bienfaisant, et il s'est guidé. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit je pardonne à n'importe qui. Il a dit je pardonne s'il remplit les quatre conditions. Ce n'est pas comme disent les gens, fait n'importe quoi, il dit Inna Allah ghafurun rahim. Naam, Inna Allah ghafurun rahim. Si tu remplis les conditions de la tauba, Allah Ta'ala va non seulement te pardonner, mais te combler de récompenses et de bonheur. Mais fais, sois sincère dans la Touba. Sois sincère dans la Touba. C'est pas tu joues. Tu joues avec le feu et tu dis Inna Allah ghafurur rahim. طيب. أما إذا كان الزوج يشرب الدخان. Maintenant, si le prétendant fume, si le prétendant qui s'est approché de la famille, c'est quelqu'un qui fume. Ou الزوجة تستعمل النمس. Ou bien la prétendante, c'est une femme qui s'épile les sourcils. Les sourcils. فهذا يخل بالدين. C'est sûrement يعني quelque chose qui touche le dîn. Quelque chose qui touche le dîn. وينقص الإيمان بلا شك. C'est quelque chose aussi qui affaiblit la foi. Sans doute. فهل يزوج شارب الدخان وهل تزوج المتنمسة. Mais est-ce que cet homme qui fume la cigarette, on va le marier? Et est-ce que cette femme qui s'épile les sourcils, on va la marier ou pas? Al-Zahir, na'am. Na'am. Il a dit, l'avis yani, auquel je penche, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui dit ça, c'est pas moi. Il a dit oui, on les marie. لأننا لا نعلم أن أحدا من علماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة الزوجة عدلين. نعم. Pourquoi on les marie? Il a dit parce que je ne connais aucun des ulama qui a dit que pour marier deux personnes, il faut que les deux yani, soient dans la grande piété, qu'ils ne fassent aucune faute. Il a dit, je ne connais pas cela. Naam. Walou shurita dhalik fa fata an-nikah ala kathir min nas. Ensuite, si pour marier quelqu'un, il faudrait qu'il ne fasse pas de péché, et pour marier une femme, il faudrait qu'elle ne fasse pas de péché, alors il a dit, beaucoup de gens ne se marieraient pas. Et on ne pourrait pas marier tout le monde dans ce cas. Naam. Naam. Ensuite, Cheikh Lahmou a dit, sah. Si deux hommes se présentent à une femme, quelqu'un qui ne fume pas et quelqu'un qui fume, certes, elle doit choisir celui qui ne fume pas. Mais maintenant, les portes sont fermées et les prétendants ne viennent plus. Et elle choisit entre celui qui fume ou bien rester toute sa vie sans mariage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est libre. Si elle sait qu'elle peut se retenir comme ça, naam, et ne pas tomber dans les fitnas, ce qui est un peu étonnant, surtout en Europe, alors elle est libre. Mais si elle se marie avec lui, parce qu'il n'y a d'autre issue que lui, il n'y a pas un autre mieux que lui qui est venu, ça, elle n'a pas de ism. Naam. Ensuite, on va revenir spécialement à celui qui se marie avec une femme, si lui il fait la zina ou bien elle fait la zina. On va revenir dans 10 minutes à peu près, inshallah ta'ala. Ensuite, il a dit, wa mansab, yani an yakun al insan nasiban, wa huwa al nasab, lahu asl fi qaba'il al-arab. Naam. Certains ulama ont dit que si quelqu'un qui se marie et il est connu, par exemple, dans la famille, comme on dit maintenant de nos jours, on dit X est une personne de grande famille, une famille très connue, de grande famille. Ou alors une famille qui a une tribu très connue. On dit les X, les Ben Kala, les X, naam. C'est une famille très connue, une tribu, naam, qui a des ancêtres, yani qui va au loin. Naam. Il a dit, si par exemple la fille est de ce genre, la hiérarchie, et que le garçon n'a pas cette chose, et la fille a cette chose, certains ulémas ont dit qu'on ne pouvait pas les marier. On dit qu'on ne pouvait pas les marier. Mais regardez ici. On va donner un exemple. Il a dit d'abord, ce qui est vrai, le plus juste, c'est que on peut les marier en islam. Ça, c'était autrefois. La fille disait, moi je suis la fille de X. Je ne me marie pas avec Y qui n'est pas connu. En islam, non. Le meilleur de nous, c'est celui qui a la meilleure foi. Si j'ai plus de foi que toi et de science, je suis mieux que toi. Même si tu es la fille de X, et moi je suis la fille du plus pauvre du pays. Et le contraire. Si moi je suis le fils du roi, et toi tu es la fille de celui qui travaille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il ramasse des ordures, Mais tu es pieuse, tu es mieux que moi, le fils de roi. Naam, si je n'applique pas l'islam. Il a donné ici un exemple, Wulhurriya, en ce qui concerne la liberté, l'affranchissement et l'esclavage. Naam. Fayedjouz, elle nous ouvre al Abdul. Il est permis en islam de marier à la femme qui est affranchie, on la marie avec un esclave. Bien sûr, elle est croyante, il est croyant. En islam, il est permis à une femme qui est affranchie de se marier avec un esclave. Mais par contre, ce qui est interdit, c'est de marier un homme affranchi avec une esclave, avec une femme esclave. En islam, il est permis à une femme affranchie de se marier avec un homme qui est esclave. Et il n'est pas permis à un homme qui est libre, non, de se marier avec une femme qui est esclave, avec, sauf dans la daroura. Et avec trois conditions. On a dit la première condition, sauf si est dans la daroura. Deuxièmement, il n'a pas trouvé de femme ou il n'a pas la dot. Et troisièmement, il n'a pas assez d'argent pour acheter une esclave. Car s'il peut l'acheter, il pourra faire le rapport avec elle sans se marier avec elle. Et on a dit que ça, c'est mieux que de se marier avec une esclave, car c'est interdit. Et maintenant, s'il n'a pas la dot pour se marier avec une femme qui est libre et il a peur de la zina, alors il peut se marier avec, et il n'a pas d'argent pour acheter une esclave, alors il peut se marier. Maintenant, je pose la question à Ismaïl et Wasmo et Muslim. J'espère, Inch'Allah ta'ala, qu'ils connaissent la réponse. Pourquoi la femme qui est libre peut se marier avec un esclave? Et pourquoi l'homme qui est libre ne peut pas se marier avec une femme qui est esclave? Pourquoi? Allez, j'attends la réponse. Si vous ne répondez pas, c'est que vraiment vous n'avez pas assisté aux doros qui sont passés. J'attends, Inch'Allah ta'ala, quelques temps. Car si l'homme se marie avec une femme esclave, l'enfant naît esclave. Ahsant, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Naam. Naam, c'est comme il a dit exactement. Si un homme se marie avec une femme qui est esclave, tous ses enfants seront des esclaves. Imagine, tu vas te marier avec une esclave, tes enfants, tu vas les trouver au marché, on les vend, comme on vend quoi? Comme on vend la sardine, on vend les pommes de terre. Et on vend les frigos, etc. dans le marché. Subhanallah. Donc on, et si la femme qui n'est pas esclave et libre se marie avec un homme qui est esclave, ses enfants seront libres. Ses enfants seront libres. C'est le contraire. Pourquoi? Que dit la règle? La règle dit que les enfants suivent leur mère en ce qui concerne l'esclavage et la liberté. Les enfants suivent la mère dans l'esclavage et dans la liberté. Si un homme libre se marie avec une esclave, les enfants seront des esclaves parce qu'ils suivent la mère dans l'esclavage et la liberté. Si une femme qui est libre se marie avec un homme qui est esclave, les enfants seront libres parce que la femme est libre. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas marié avec qui? Avec Maria, Maria la Coptienne. Il ne s'est pas marié avec elle, mais il l'a prise comme ça dans le butin. Et il se permettait avec elle des relations, et il a eu d'elle Ibrahim. Ibrahim qui est qui? Qui est son fils. Est-ce que Ibrahim c'est un esclave? C'est un libre. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec Maria. Mais il a eu des rapports avec elle comme une femme qu'on a du butin. Mais si c'était marié avec elle, Ibrahim aurait été un esclave. Et alhamdoulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait ce qu'il fait. Il ne se marie pas avec une esclave, c'est interdit en islam. Sauf quand j'ai dit dans les trois conditions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc je répète la règle très vite que j'ai dite une fois, pour ceux qui la savent, ça sera inshallah ta'ala une, comment dirais-je, attends, comment ça s'appelle le mot, une révision, rappel, et pour ceux qui ne la savent pas, qu'ils l'apprennent. Naam. L'enfant suit le père dans le nom. Naam. Dans le nom et la filiation. Il suit le père. X s'est marié avec une femme et a un enfant. L'enfant ne prend jamais le nom de la mère. Il suit toujours le père dans le nom et la filiation. Premièrement. Deuxièmement, l'enfant suit, en ce qui concerne le père et la mère, suit le meilleur des dîmes, le meilleur des religions. Quand un musulman se marie avec une chrétienne, ils ont un enfant, on va voir le conjoint, il y a l'islam chez le père, le christianisme chez la femme. L'islam est mieux que le christianisme. Donc l'enfant sera musulman. Naam. Si l'homme est un chrétien, il se marie avec une bouddhiste qui adore le feu, etc. Ils ont un enfant, on va voir. On a bouddhisme et on a christianisme chez le père. Le christianisme est mieux que le bouddhisme. L'enfant sera chrétien. Donc l'enfant suit le parent qui a une meilleure religion. Deuxième règle. Troisième règle. L'enfant suit la mère, pas le père. Suit la mère dans l'esclavage et la liberté, l'affranchissement. L'enfant suit toujours la mère dans l'esclavage et dans quoi? Et dans le contraire, c'est-à-dire l'affranchissement. C'est pour ça qu'en islam, il est interdit à l'homme de se marier avec l'esclave, car il aura des enfants qui suivront la mère, qui seront esclaves. Mais il est permis à la femme, qui est libre, de se marier avec un esclave. Pourquoi? Parce que les enfants suivent qui? Suivent la mère dans la liberté et l'esclavage. Puisque leur mère est libre, donc il n'y a pas de problème que le père soit esclave. L'essentiel, c'est la mère. Donc les enfants suivent leur mère dans l'esclavage et la liberté. Quatrièmement, les enfants suivent le plus mauvais des parents dans la souillure et dans le fait de les manger ou de ne pas les manger. Ce qu'on appelle dans le halal et le haram. Les enfants suivent le plus mauvais des parents dans quoi? En ce qui concerne la souillure et la purification et en ce qui concerne est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram à manger. Je donne un exemple. L'âne qui s'accouple avec la jument. L'âne, quand il s'accouple avec la jument, vous savez que la jument, quand il s'accouple avec la jument, ça va donner ce qu'on appelle la mule. Barlon. En arabe, on dit barlon. Barlon. Quand l'âne s'accouple avec la jument, ça donne un barl. Ou bien, quand le cheval s'accouple avec l'ânesse. Avec l'ânesse. Ça donne la même chose. Ça donne un barl. Mais dans le deuxième cas, le barl, la mule, est beaucoup plus courte. Mais dans le premier cas, c'est âne avec jument. Ça donne une mule beaucoup plus grande de taille, assez haute. Taïb. Maintenant, ils se sont accouplés, ils ont donné un enfant. Naam. On va voir, je ne sais pas si ça s'appelle un enfant, ils ont donné naissance à un animal, un mouhim. Qui va-t-il suivre? Il va suivre le père qui est l'âne, on va dire, donc, cette mule qui a été née, donc est souillée, c'est-à-dire que si elle urine sur nous, c'est de la souillure, et on va dire en même temps, elle ne se mange pas, ou bien on va dire non, la mule va suivre sa mère, qui est la jument, et alors, si elle urine sur nous, ce n'est pas souillé, car l'urine de la jument n'est pas souillée, car tout animal qui se mange, son urine et ses excréments ne sont pas. Et par contre, et on va dire aussi, donc la mule va se manger. Elle se mange car elle suit qui? Elle suit la mère. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Les enfants suivent le plus mauvais des parents dans la souillure et la purification. Donc ici, la mule va suivre qui? Va suivre le plus mauvais des parents, c'est qui? C'est l'âne ou la jument? C'est l'âne. C'est le plus mauvais. car l'âne est souillé, la mule et la jument n'est pas souillée. Donc, on ne va pas manger la mule. On dit, c'est interdit de manger la mule, et on dit aussi que son urine et ses excréments sont souillés. Taïb. Maintenant, on va revenir à autre chose. Non. Ensuite, il a dit, وَصِنَاعَةٌ زَرِيَّةٌ وَيَسَارٌ بِحَسْبِ مَا يَجِبُ لَهَا أي غير مزرية ضرورية بالشخص فمن الكفاءة أن لا تكون صناعته مزرية يعني ممقوتة عند الناس مثل الكساح منظف الكنوف أو زبال وهو الذي يكنس الزبالة ويحملها فهذا ليس كفءا للمرأة معصومة محترمة لكن لو زوجناها كساحا ينظف الكنوف صح العقد نعم الثاني ويسار بحسب ما يجب عليها يعني غنى فليس شرطا أن يكون الزوج غنيا فيزوج ولو كان فقيرا وهي غنية فالمهم أن المنصب وهو النسب الحرية ليس شرطا في صحة النكاح لكن شرط في لزومه نعم certains ulama ont dit que par exemple la femme نعم qui va se marier il faudrait que le prétendant il faudrait que son travail ne soit pas un travail il travaille dans une chose qui ne soit pas quelque chose de dont les gens yani comment on dit ça dont les gens yani que les gens n'acceptent pas facilement. Non, je ne trouve pas le mot, mais par exemple, un éboueur. Quelqu'un va demander la main de la fille. Son père lui demande qu'est-ce que tu travailles? Il dit je suis éboueur. Je vide les poubelles, etc. Vous connaissez ce que c'est l'éboueur. Non. Ou bien il dit je travaille dans les toilettes. Non, je travaille dans les toilettes. Je lave les toilettes, etc. Non. Certains ulama ont dit, si elle vient d'un milieu plus élevé, alors on ne peut pas lui donner un nom pareil. Mais le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que c'est permis de se marier. C'est permis, un acte de mariage avec un homme qui fait cette chose est permis, il est juste. Il suffit seulement que la femme accepte et que les parents ne soient pas du genre après à dire que celui-là, il a un métier répugnant, etc. Ce ne sont pas des gens qui parlent. Ce sont des gens qui ont accepté. Tu as accepté. Il a été sincère avec toi. Il a dit, je suis éboueur. Et tu as accepté. Peut-être que ta fille, avec cet éboueur, va être plus heureuse que lorsque tu la maries avec un ministre ou avec le prince. Non, le fils du roi, peut-être que ta fille sera plus heureuse avec les boueurs. Alors maintenant que tu as accepté, elle a été franc avec toi, tu n'as pas menti, il ne faut pas après parler et dire pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela. Non. Car il y a des gens, mal SF, c'est très malheureux, mais moi il y a beaucoup de lettres qui m'arrivent, qui me disent que le prétendant nous a menti. Non, nous a menti. Il a dit je suis ingénieur, alors qu'il n'était pas ingénieur. Je travaille ceci, alors que je ne travaille pas ceci. C'est pour ça que je vous ai dit toujours de faire la petite enquête avant de donner la fille. De faire l'enquête, c'est vraiment celui-là, c'est un véridique, mais c'est quelqu'un qui ment, hein, car certains gens, pour arriver à leur but, ils mentent. Et une sœur m'a même dit, je lui ai dit, pourquoi tu nous as menti? Tu as dit, j'avais tel âge alors que tu n'as pas l'âge. Même l'âge, il ment. Il dit par exemple j'ai 25 alors qu'il a 40. Subhanallah l'azim. Il dit je travaille ceci ou je travaille cela. Subhanallah l'azim. Pas de crainte à ce point. Et lorsqu'elle lui a dit pourquoi tu mens, il a dit si je mens pas, je ne peux pas arriver à ce but. Il faut mentir pour arriver à ce but. Allahu Akbar, subhanallah. Au lieu de faire la touba et le repentir, tu dis maintenant naam. Et il faut mentir. Moi je suis très intelligent, j'ai menti. Si j'étais pas menti, j'avais pas menti, je serais pas arrivé à toi. Tu vois, je suis très intelligent, moi. Subhanallah al-Azim. Allah al-Musta'an, moi je dis Allah al-Musta'an. Naam. Une fois, quelqu'un m'a posé la question. Je travaille comme éboueur en France. Et quand je prends la poubelle, les ordures, j'ai des gants dans mes mains. Et certains frères m'ont dit que ce travail n'était pas permis. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je lui ai dit, attends, avant que je te réponde, je vais poser cette question à quelqu'un, inshallah ta'ala, qui a de la science. Et en fait, j'ai posé la question au frère Abdul Malik Ramadani, hafidhahullah. Et il a répondu que, non seulement, il lui a été permis de travailler en cette chose, mais encore, il est mieux que celui qui ne travaille pas et vit avec les RMI. Naam, il ne travaille pas, il dort jusqu'à 11h ou midi, et tous les 3 mois ou 4 mois, on lui donne le RMI. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Celui-là, il est mieux que lui. Parce que lui, il se lève le matin et il va travailler et il va suer. Le muhim, il ne travaille pas dans le haram. Il ne travaille pas dans un dancing, il ne travaille pas dans un bar, il ne travaille pas dans une banque. Naam, il travaille dans les ordures, il prend les ordures et il les jette, et comme ça. Celui-là, il est mieux que celui qui vit avec le RMI et ne veut pas travailler. Naam. Ça, c'était la réponse de Cheikh Hafidhahullah. Ici, il dit, ce n'est pas obligé pour accepter l'homme qu'il doit être riche, ni travailler, ni dans je ne sais pas quoi, avoir des usines, etc. L'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui, chaque mois, a une paye. Et cet argent, bi'idhnillah ta'ala, suffit à manger, boire et acheter le nécessaire sans être enclin à tendre la main aux autres pour leur dire « aidez-moi ». Si l'homme remplit cette condition, ça suffit. Car Cheikh Ibn Uthaymin, la yarhamou, est du genre des ulama qui voient que si l'homme ne peut plus dépenser pour la femme, alors il lui est possible qu'elle demande l'annulation de son mariage. Car les ulama ont divergé sur ce point. Quand l'homme ne peut plus pourvoir à sa femme, il n'a plus d'argent pour acheter le lait, pour acheter le pain, pour payer l'électricité, pour payer le loyer, il n'a plus. Certains ulama, comme Cheikh Al-Albani, ont dit qu'elle n'a pas le droit de demander le divorce. Elle continue avec lui, elle souffre. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, elle a le droit de demander. Mais d'abord, avant cela, on va voir. Est-ce que elle savait que son mari, c'était de ce genre, qu'il était, n'avait pas d'argent, etc. Et elle s'est mariée? Si c'est comme ça, elle n'a plus le droit de demander la séparation. Parce que déjà auparavant, elle savait qu'il était comme ça, qu'il n'avait rien et qu'il n'avait pas un sou dans la poche. Et elle a accepté. Tu as accepté auparavant, alors continue, tu n'as pas le droit d'arrêter. Mais maintenant, il a dit, si elle ne savait pas, il travaillait, il était masha'Allah. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. Tout d'un coup, expulsé, ceci, cela, licencié, ceci. Il n'y a rien maintenant. Il a dit, qu'est-ce qu'elle doit faire auparavant? D'abord, si elle a un niveau, elle lui demande qu'il la laisse travailler. Naam. S'il la laisse travailler dans un endroit où c'est halal, alors elle ne demande pas la séparation. Mais s'il ne la laisse pas travailler, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que, de son avis, elle peut demander la séparation. Pourquoi? Parce qu'un animal, s'il est chez toi et tu ne peux plus le faire manger, il est interdit que tu le gardes. Qu'en est-il une femme? Un animal, tu as un chat à la maison et tu n'as plus d'argent pour lui acheter le lait ou bien lui acheter les biscottes ou je ne sais pas ce qu'il mange, ou les sardines, alors tu dois choisir entre deux choses. Lui ouvrir la porte pour qu'il sorte, naam, ou bien c'est l'enfer qui t'attend, car il va mourir et ce sera toi qui l'as tué sciemment, sans excuse, sans raison. Car tu pouvais lui ouvrir la porte et le laisser dehors, dans la rue, ou le mettre dans la voiture et le déposer devant la tour Eiffel, en plein Paris. Et eux, ils sont libres, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? La mairie va le tuer, va le noyer, va le prendre dans un parc zoologique. Ça ne m'intéresse pas tout ça, ça ne me regarde pas. L'essentiel, il n'est plus chez moi. Pour que demain, devant Allah Ta'ala, je ne suis plus responsable. Naam. Mais si quelqu'un le laisse à la maison jusqu'à ce qu'il meure, c'est l'enfer qui l'attend. Comme la femme, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté chez Allah Ta'ala, il a dit, et j'ai jeté un coup d'œil dans l'enfer. J'ai vu une femme noire, noire de peau, grande de taille, et un chat qui l'a griffé. J'ai demandé à Djibril pourquoi. Il m'a dit, cette femme avait un chat quand elle est attachée, sans lui donner à manger et sans la libérer, sans libérer le chat, jusqu'à ce que le chat soit mort. Maintenant, tu la vois en enfer avec le chat en train de la griffer. Alors, si un animal, on ne doit pas le garder si on ne peut plus survenir à ses besoins. Qu'en est-il d'une femme? Comment je la laisse avec moi et je n'ai pas ni à lui faire manger, ni à lui faire boire, ni à l'habiller, etc. C'est la vie de Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo. Et comme je vous ai dit, certains, comme Cheikh Al-Albani a dit, même dans ce cas, elle doit patienter avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite, il a dit, فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبْدُ عَفِفَةٍ بِفَاجِرٍ. Il a dit, si jamais le père marie sa fille avec un pervers. Le père marie sa fille avec un pervers. Il a dit, un pervers ici, c'est le zani. Je vous ai dit, on allait revenir aux zani. Le pervers ici, c'est qui? C'est zani. فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبْدُ عَفِفَةٍ بِفَاجِرٍ. Si jamais le père marie sa fille avec un pervers, d'après celui qui a écrit le livre, que le mariage est valable. Le mariage est valable. Mais Cheikh Al-Rahmou veut montrer que quoi? Il va montrer que le mariage n'est pas valable. Non. Si quelqu'un fait marier une fille avec quelqu'un qui est connu et fait la zina, le mariage n'est pas valable. Et si un homme, on le marie avec une femme qui fait la zina, son mariage lui aussi à l'homme n'est pas valable. Pourquoi? Il a dit, une seconde, le mariage n'est pas valable jusqu'à ce qu'il fasse la tauba. Sauf si les deux ont fait la tauba. Premier cas, c'est l'homme qui fait la tauba, parce que c'est lui le zani, pas elle. Dans le deuxième cas, c'est elle qui fait la tauba, parce que c'est elle la zania, pas lui. Maintenant, si c'est les deux, ils ont fait la zina auparavant, là, ils ne peuvent plus se marier s'ils ne font pas la tauba. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de couples, se connaissent d'abord, font la zina d'abord, ensuite veulent se marier. Cela, qu'est-ce qu'on leur dit? Votre mariage est nul, sauf si vous faites la tauba sincère. Comment reconnaître que la tauba est sincère? Certains ulama ont dit, pour qu'on sache si la tauba est sincère, l'homme par exemple demande à la femme de faire la zina une autre fois. Non. Ou bien la femme, pour tester l'homme s'il est sincère dans sa tauba, elle lui demande, elle lui dit, et si tu venais ce soir à la maison, je serai seul, etc. Pour savoir s'il accepte ou pas. S'il accepte, ça veut dire qu'il n'a pas fait le repentir. Et si lui, il lui demande de venir et elle accepte, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le repentir. Mais cet avis est faible. Cet avis est faible. Vous savez pourquoi? Parce que il est possible que l'homme avait vraiment fait le repentir. Mais que maintenant, lorsqu'elle l'a appelé, il a changé d'avis, il est devenu faible, il l'a suivi, il a voulu faire la zina. Alors que Allah Ta'ala sait qu'il était témoin, il est témoin qu'il était vraiment sincère, et maintenant il est tombé encore une fois dans la fitna. Il a dit non, on ne fait pas comme ça, on ne teste pas, car on peut retomber dans la fitna. Alors, le meilleur test c'est quoi? C'est que par exemple, les deux personnes, comme on dit tenter le diable. Non, on va tenter le diable, c'est pas possible. C'est pour ça que le meilleur test qui prouve qu'il y a eu ou qu'il y a sincérité dans la tauba, c'est quoi? C'est que voilà, ils se sont quittés. Ils ne se parlent plus. Ils ne se voient plus. Ils ne se téléphonent plus. Là, ils ne s'envoient plus des mails. Tout est terminé. Elle attend quoi? Elle attend qu'il vienne lui demander sa main après la purification de ses menstrues. Alors une femme qui a fait la fornication, il faudrait qu'elle fasse ce qu'on appelle la viduité avant de se marier pour prouver qu'elle n'est pas enceinte de lui ou alors d'un autre si elle fait zina avec tout le monde. Naam. Donc, ils ne se parlent plus, ne se téléphonent plus, ce sont des étrangers, se rencontrent dans la rue. Il ne lui dit pas bonjour, car c'est une étrangère, il ne la connaît pas. Et il attend que sa période se termine et vient demander sa main normalement à son père. Là, c'est Inch'Allah un signe que vraiment ils ont fait tawbah. Mais s'ils se téléphonent toujours et se parlent et discutent et ceci, cela, c'est qu'ils n'ont pas encore fait la tawbah. Al-Muhim, il a dit ici, pourquoi une femme qui a fait la zina, on ne peut pas la marier avec quelqu'un si elle n'a pas fait la tawbah? Pourquoi? Parce que il est possible que dans son ventre, il y ait le liquide d'un autre homme. Ensuite, le nouveau qui va se marier avec elle, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va mettre son liquide aussi chez elle, il va y avoir mélange des deux liquides. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un grand péché. Ensuite, peut-être que l'homme qui va se marier avec elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il ne sait pas que le liquide qui a donné l'enfant, bi'idhnillah, c'est le liquide du premier homme. Ce n'est pas le liquide d'elle. Et comme c'est une femme qui fait la zina, donc, elle peut aussi, quand il est absent, elle fait la zina. Pourquoi pas? Qui fait une fois, fait mille fois. Pourquoi je fais la zina une fois et je ne fais pas mille fois? Pourquoi je vole un œuf et je ne vole pas un bœuf? Pourquoi je vole aujourd'hui et je ne vole pas demain? Si c'est permis, c'est permis tout le temps. Donc, si une femme fait la zina, tant que je me marie avec elle, je n'ai pas confiance. Je suis absent, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Non. Et, ça c'est en ce qui concerne la femme. Et en ce qui concerne l'homme, pourquoi on ne marie pas une femme avec un homme qui fait la zina? Parce que Cheikh Rahmo a dit, il a dit, quand l'homme fait la zina, ça ne devient pas très important chez lui si sa femme fait la zina. Non. Et alors, il deviendra un déyous. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le déyous ne rentrera pas au paradis. On a dit à Rasulallah, c'est qui le déyous? On ne connaît pas. Il a dit le déyous, c'est celui qui voit sa femme faire des péchés et ça ne lui dit rien. Et il ne la gronde pas, ni la répudie, ni rien. Hein? C'est comme si de rien n'était. Celui-là, c'est un déyous. Vous savez ce que vous avez entendu ce qu'a dit le shir? Quand quelqu'un fait la zina, si jamais il sait que sa femme a fait aussi la zina, ça ne lui dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que lui aussi, il l'a fait. Et d'ailleurs, s'il venait à parler, elle lui dit, pourquoi toi tu fais? Pourquoi toi tu profites avec les femmes? Moi, je ne profite pas avec les hommes. C'est quoi cette injustice? Tu es injuste. Toi, tu fais la zina, tu profites. Pourquoi moi, je ne profite pas aussi? Je t'ai vu hier avec la voisine en haut. Aujourd'hui, moi, je suis descendu chez le voisin en bas. On est quitte 1-1. Là, on joue le match. On va voir qui va gagner. On va voir que je vais te gagner, bidnillah. Demain, ce sera 3-0. Et comme ça. Non, pourquoi toi tu fais, moi je ne fais pas. Donc, qu'Allah nous préserve. Ça, qu'Allah nous en préserve. Remarquez alors que, quand quelqu'un fait une faute et a un défaut, il n'a pas le droit de gronder un autre et de lui dire pourquoi toi tu fais cette chose. Vous ne remarquez pas que quand quelqu'un, par exemple, est responsable, disons responsable d'une société ou d'un ministère, et par exemple, il vole. Il prend de l'argent, il vole des morceaux de terre, il vole ceci, cela, il vole des machines de la société, etc. Est-ce que s'il voit un autre voler, il va lui dire pourquoi tu voles? C'est impossible. Parce que l'autre va lui dire, et vous, pourquoi vous volez? Moi, je vous ai vu voler, j'ai volé. Moi j'imite mon supérieur. Je fais comme mon supérieur, mashallah. Vous volez, moi, je vole. Donc, le supérieur ne peut pas lui dire pourquoi tu voles. Parce que lui aussi, c'est un grand voleur. Mais ce n'est pas. Si jamais il ne volait pas, si jamais il trouve quelqu'un en train de voler, c'est très grave pour lui. Naam, il va le licencier, il va, je ne sais pas ce qu'il va lui faire. Pourquoi? Parce que lui, il ne vole pas. Donc, quiconque veut gronder quelqu'un ou là, blâmer un mal, il faut d'abord lui qu'il ne le fasse pas. D'abord, commence-toi, ne le fais pas. Ensuite, tu peux dire aux gens, ne faites pas cette chose, pourquoi vous la faites? Sinon, directement, on va te dire, commence par toi, va toi-même, naam, regarde toi-même, tu regardes la bosse du chameau et tu oublies ta bosse. Regarde toi-même, tu fais le même défaut et tu en fais plus que nous. Commence par toi, inshallah ta'ala, ensuite viens nous apprendre la morale, bi'idhnillah ta'ala, on va accepter de toi. Tayyib, il a dit, wa man urifa bil liwat wal 'iyadu billah, la yuzawwaj hatta ya'lam annahu tab. Et quiconque est connu qu'il fait par exemple ce qu'on appelle l'homosexualité. Non, si un homme fait cette chose avec un autre homme, alors en islam, il est interdit de le marier. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que on sache qu'il a fait tawba. Non. Et si jamais une femme est connue qu'elle fait cette chose aussi avec la femme, ça s'appelle, c'est aussi l'homosexualité, il est interdit de marier cette femme jusqu'à ce qu'elle se repente, elle aussi. Naam. Je reviens un peu en arrière. Quant à l'homme qui fait la zina, ou bien la femme qui fait la zina, si jamais une femme, par exemple, accepte de se marier avec quelqu'un qui fait la zina, et elle sait qu'il fait la zina, et elle accepte de se marier avec lui, ça veut dire l'une des deux choses. Et c'est Allah Ta'ala qui a dit ça dans le Coran. Ou zaniyatu l'inkihwa ila zanin ou mushrik. Tayyib. Si une femme accepte que son époux, yani elle sait de lui qu'il fait la zina, et elle accepte qu'elle se marie avec lui, ça veut dire ou bien elle, c'est une zaniya, ou bien elle, c'est une mécréante. L'une des deux choses. Comment cela? Naam. Maintenant, si elle sait que son mari fait la zina et qu'Allah Ta'ala a dit, celui qui fait la zina, on ne doit pas le marier, sauf avec une zaniya. Et quand même, elle a accepté et elle s'est mariée avec lui. Donc, c'est une zaniya. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Non. طيب, tout le monde sait que, bi'idhnillah azzawajal, que dans le Coran, il y a un verset que tout le monde, inshallah ta'ala, connaît, bi'idhnillah azzawajal. Il parle de zani et de la zaniya. Non. Il parle de celle qui fait la fornication et l'homme qui fait aussi la fornication. Et Allah ta'ala dit, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ensuite, ce qui a trait avec le dars, c'est que Allah Ta'ala dit الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Donc Allah Ta'ala dit que الزاني, l'homme, ne peut épouser qu'une zaniya ou bien une mécréante, associatrice. Et la femme qui fait la zina ne peut épouser qu'un zani ou bien un associateur. Pourquoi? Pourquoi il dit comme ça? Pour que vous compreniez bien le verset. Pour que vous compreniez bien le verset, regardez ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ismaël, ramène-moi, inchallah, si tu peux le verset sur ton mort. C'est le premier verset, 5 ou 6, c'est tout. Le début, hein, le début sur ton mort, peut-être 6e verset ou la 7 ou la 5e. Non, c'est pas loin, yani, c'est le début de la page. Non. Ramène-moi aussi, dit Zani, l'inkihou la zaniyatan. C'est bi'idna ta'ala le 3e verset. Ah, voilà. C'est pas ça. Le fornicateur, n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Jazakallahu khairan. Remarquez, hein? Le fornicateur, celui qui fait la zina, n'épousera, ne peut épouser qu'une fornicatrice ou associatrice. C'est-à-dire la femme. La femme, c'est une fornicatrice ou une associatrice si elle se marie avec un fornicateur. Vous avez remarqué, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou associatrice. Ça veut dire toute femme qui a épousé un fornicateur, elle est ou bien fornicatrice ou bien associatrice. Pourquoi ? Elle est fornicatrice si elle reconnaît. Elle dit, sah, la zina c'est haram. Allah Ta'ala nous a interdit d'épouser un fornicateur, mais moi je l'épouse. Allah ghalib, je l'aime, je ne peux pas, je l'épouse. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est ? C'est une fornicatrice, comme lui. Ou bien, elle dit, sah, Allah Ta'ala a dit la zina est haram, mais moi je ne reconnais pas cette chose. Moi, pour moi, je ne reconnais pas que je n'ai pas le droit d'épouser un fornicateur. J'ai le droit et je m'en fous, je ne reconnais pas ce verset et je l'épouse. Alors c'est une mouchrika. C'est une mouchrika. Classe. La fornicatrice est mieux qu'elle. La fornicatrice a fait un grand péché. Elle n'est pas sortie de l'islam. La deuxième est sortie de l'islam. Elle a dit je ne reconnais pas. Je ne vois pas pourquoi c'est interdit. Je me marie. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure. Je donne toujours le même exemple. Celui qui dit je reconnais le siwak, mais je ne le mets pas dans ma bouche. J'aime le dentifrice et la brosse à dents. Il est toujours musulman. Et celui qui dit, celui qui dit, je reconnais pas le siwak, je le reconnais pas. Même s'il le met dans sa bouche, c'est un mécréant. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas reconnu. Il a dit, je ne reconnais pas ça. Ensuite, il va l'acheter et le mettre dans sa bouche, il est toujours un mécréant. Et celui qui reconnaît le siwak, il dit ça, il est du prophète, c'est de la sunna. Mais je ne le mets pas, je mets la brosse à dents, il est toujours musulman. Et quand je donne un exemple pour les femmes, je dis, celle qui dit, je reconnais que le djilbab est obligatoire. Mais je ne peux pas le mettre maintenant, je suis complexé, j'ai peur des gens, j'ai honte, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la foi faible. Elle est musulmane. Elle est toujours dans l'islam et elle a fait un grand péché de ne pas avoir mis le djilbab. Et l'autre qui dit, je ne reconnais pas le djilbab, c'est quoi le djilbab ça ? Je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Ensuite, elle va l'acheter, le mettre, elle est kafira. Elle est dans la rue avec le djilbab sur la tête. Et elle est kafira. Pourquoi ? Elle a dit, je ne reconnais pas le djilbab. Ensuite, elle a acheté seulement pour faire plaisir à son père, ou là, je ne sais pas quoi, ou là, pour qu'elle plaise à quelqu'un. Elle est kafira. Vous voyez la différence ? Maintenant, la première. Il y a un fornicateur qui est venu lui demander la main. Elle dit, sah, il n'a pas le droit de se marier avec moi. C'est haram si je vais me marier avec lui. Mais ma foi est faible, une zaniya, fornicatrice. Mais si elle dit, je ne le reconnais pas, je ne reconnais pas cette chose, non, ce n'est pas haram, c'est halal, alors c'est une associatrice. Ensuite, qu'a dit Allah Ta'ala ? La même chose. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Maintenant, l'homme va épouser une femme, mais ici, il sait que c'est une zaniya. Elle fait la fornication et elle n'a pas fait le repentir. Ou bien, il reconnaît, il dit, sah, c'est haram de me marier avec elle. Mais je me marie. Je sais que c'est haram, je me marie. Et laisse demain, je vais aller en enfer. C'est un fornicateur. Naam. Et s'il dit non, pourquoi c'est haram ? C'est pas haram. Je peux me marier avec elle. Je ne reconnais pas cette loi divine. C'est un kafir. C'est un associateur. Donc vous voyez, toute personne qui est mariée avec un fornicateur, ou là, tout homme qui est marié avec une fornicatrice, il est ou bien fornicateur ou bien mouchrik. Et elle qui s'est mariée avec le fornicateur, elle est ou bien fornicatrice ou bien mouchrika. Il n'y a pas une troisième chose au milieu. Il n'y a pas de troisième au milieu. Ensuite, on va terminer, inshallah ta'ala. Le chef a dit ici, il a dit. Une seconde, le micro, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Oui. Ensuite, le chef a dit. Imam. Hmm. طيب on va terminer la dernière page inshallah ta'ala. المهم فإذا كان الزوج فاسقا بون صون لا دي maintenant s'il fait l'homosexualité on a dit aussi qu'il ne pouvait pas se marier avec lui. Maintenant, si c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, Cheikh Larahmo dit, c'est sûr que ça, vraiment, ça touche le dîn. Ça touche le dîn, le fait que quelqu'un boive de l'alcool. Ensuite, à part qu'il a fait un grand péché, le fait de boire l'alcool, à part que c'est un grand péché, mais encore, son mal ne s'arrête pas à lui. Ce n'est pas il se fait du mal à lui-même, c'est tout. Naam, s'il faisait du mal à lui-même, c'est tout. Ensuite, il rentre à la maison. Hein, comme un chien, il va uriner sur lui, il va vomir sur lui, il va dormir dans une autre chambre comme un chien. C'est plus ou moins grave. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, il a dit, mais des fois, il rentre avec un couteau dans la main, un poignard, subhanallah, pour la tuer. Naam. On m'a dit ceci ou cela, ou je ne sais pas quoi. Le shaitan va venir, il va profiter de l'occasion. Tant qu'il a perdu sa raison, il va lui faire rappeler des choses qui se sont passées il y a 20 ans. Ça fait 20 ans, elle t'a humilié devant son père et sa mère. Allez, maintenant, c'est le moment opportun de prendre la vengeance. Subhanallah al-Azim. Il rentre avec un couteau ou une hache dans la main. Subhanallah al-Azim. Il a dit, wa ahyanan. Et des fois, il demande à sa femme qu'il fasse la zina avec l'une de ses filles. Naam, je fais la zina avec X, maintenant avec ma fille. Maintenant, ça se fait à la télévision, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est haram? Là, si c'est plus ce qu'il dit, il a perdu la raison. Et on m'a raconté une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'afiyana, an yahfadana, Allah azza wa jalla, an yahfadana, an yu'afiyana, an yakfiyana, shirr. Une fois, une personne m'a raconté, je ne veux pas dire la ville où ça s'est passé, qu'une personne qui vivait seulement avec sa mère, qui se saoulait beaucoup, est rentrée une fois à la maison, vraiment, qui avait vraiment bu ce jour-là, et peut-être même pris de la drogue en même temps. Quand on mélange les deux, c'est vraiment très grave. Et il a demandé à sa mère qu'elle fasse la zina avec lui, ou bien qu'il se déchire, qu'il se coupe les veines. Subhanallah al-Azim. Il avait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, une lame, ce qu'on appelle une lame gilette. Comme ça, il la prenait devant sa main, et il a dit à sa mère, tu me laisses faire la zina, ou bien je me coupe les veines. Et au lieu de taqillah, ceci, un rasoir, taqillah, ya mon fils, kada. Va dormir, Allah yahdik, va dormir. Tu es dans un état, ceci, va dormir, Allah yahdik. Non, tu me laisses faire cette chose, ou bien je vais faire. Et le shaitan a commencé à l'enfler, et il a commencé à se déchirer un peu les veines, subhanallah al-Azim. Et sa mère, elle était vraiment entre deux quoi? Entre l'enclume et le marteau. Vraiment, 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 quelle est la solution? Est-ce qu'elle va faire la zina avec lui ou bien elle laisse son fils mourir devant elle comme ça? La hawla wa la quwwata illa billah. Et bien sûr, comme la mère a beaucoup de sentiments envers son enfant et que sûrement elle n'accepterait pas que son fils meure comme ça et que la zina pour elle c'est moins grave que de voir son fils se suicider et que cette chose pourrait se cacher seulement entre elle et lui, et qu'il est dans un état, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Elle a bien réfléchi, elle a vu que c'était la moins mauvaise des deux solutions. Et elle a accepté. Ouliyadu billah. Elle a accepté. Ouliyadu billah. Ensuite, il a fait cette chose avec elle. Ensuite, il est allé s'endormir. Allah subhanahu wa ta'ala y'afina. Et le matin, quand il s'est réveillé, et il a commencé à faire tourner le film qu'il a fait hier. Ensuite, il s'est vraiment rappelé que vraiment il avait fait cette chose. Naam, qu'est-ce qu'il a fait? il s'est déchiré les veines, n'am, et il est mort. Il s'est déchiré les veines avec le rasoir, cette fois vraiment, pour avoir fait cette chose, et il est mort. Donc, il a fait la zine avec sa mère, et il est mort, suicidé, a'oudoubillah. A'oudoubillah, a'oudoubillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit que l'alcool, c'était la mère des vices? Non, la mère des vices, la mère des péchés, c'est l'alcool. Quand on prend l'alcool, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus ce qu'on dit. Et on peut tout faire. On peut tout faire. C'est pour ça qu'en islam, il est interdit à une femme de se marier avec un homme qui prend de l'alcool. Ou bien, l'homme se marie avec une femme qui prend de l'alcool. Et s'ils sont déjà mariés et elle sent en lui l'alcool, elle lui fait une nasiha. Voilà, il y a l'alcool. J'ai des preuves que tu bois de l'alcool ou bien j'ai senti ceci ou cela. Si elle est sûre que maintenant il prend de l'alcool, elle annule son mariage avec lui. Elle annule son mariage avec lui. Nam, parce que l'alcool, c'est l'un des grands péchés. L'un des grands péchés. Nam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui buvait l'alcool viendrait le jour du jugement dernier avec les adorateurs des idoles. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah. Naam, hadith authentique. Quiconque boit de l'alcool et meurt sans faire le repentir, il viendra, car chacun viendra d'après la façon dont il est mort. Naam, quand tu meurs, tu seras ressuscité. Il viendra avec les adorateurs des idoles. Alors que c'était un musulman, subhanallah. C'est toujours un musulman, quelqu'un qui boit de l'alcool, qui reconnaît que c'est haram, c'est toujours un musulman. Il n'a pas dit je ne reconnais pas. Peut-être même qu'il va à la mosquée. Mais il ne viendra pas avec les musulmans, il viendra avec les adorateurs des idoles. Vous savez pourquoi? Parce que comme eux adoraient leur idole, ils ne pouvaient pas se séparer de leur statue, lui aussi, il adorait la bouteille. Et adorer en islam, ce n'est pas seulement faire des ablutions et faire la prière à la chose. Non, l'adorer, l'avoir dans le cœur au point où je ne pense qu'à elle et je ne peux plus me séparer d'elle. Alors, elle viendra avec toi, Yom al-Qiyamah. Et tu viendras, comme les autres viendront avec leur statue, toi tu viendras avec ta bouteille. Et pire que cela, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et qui se trouve toujours dans Sahih al-Jami', il a dit que même s'il rentrera au paradis, il ne boira pas l'alcool du paradis. Voilà le châtiment de quelqu'un qui boit de l'alcool ici et qui meurt sans faire le repentir. S'il meurt sans faire le repentir, c'est toujours un musulman. Et quand il rentrera au paradis, après être châtié par Allah Ta'ala, entre parenthèses, sauf s'il lui pardonne, alors il ne boira pas de l'alcool du paradis. Et être privé de l'alcool du paradis, c'est vraiment un grand malheur, croyez-moi. Naam, l'alcool, le vin du paradis, c'est l'une des meilleures choses qu'il y a dans le paradis. Quand on est privé de cette chose, c'est vraiment yani un malheur. Naam. Il a dit, la femme de Thabit ibn Qais, la femme de Thabit ibn Qais, que certains appellent Jamila et d'autres appellent Maryam al-Mughaliya. Naam. Quand elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je ne me plains pas de Thabit, mon mari. Elle est venue demander la séparation. Elle a dit, je ne me plains pas de mon mari en ce qui concerne son comportement ou bien sa religion. Mais je déteste le kufr après l'islam. Je déteste le kufr après l'islam. Remarquez bien qu'est-ce qu'elle a dit. Je ne me plains pas de mon mari en ce qui concerne son comportement et sa religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait un problème au niveau du dîn, alors je sais qu'il m'était possible de me séparer de lui. Mais ya Rasulallah, je sais que son problème n'est ni la religion, ni la comportement, ni le bon comportement. Mais j'ai peur du kofr après l'islam. Le kofr ici, c'est quoi? C'est le petit kofr. C'est-à-dire, j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. J'ai peur de me refuser à lui au lit. Pourquoi? Dans un autre hadith, il est cité qu'il était très moche. C'est pour ça qu'elle a dit dans un autre hadith, elle a dit, si ce n'est la crainte d'Allah, je lui aurais craché sur son visage. Si ce n'est la crainte d'Allah, je lui aurais craché sur son visage. Subhanallah, détester un mari au point où c'est plus fort que moi, là je le déteste. Et ça va me pousser à ne pas me donner à lui. Il est impossible que quelqu'un qui déteste une autre personne accepte yani, de faire avec lui ce que fait l'homme avec la femme. C'est très difficile. Pour faire cette chose, il faut aimer la personne. Sinon, ça devient un châtiment. Enlever mes vêtements et faire des choses et des choses avec une personne que je déteste et que je ne peux pas sentir. Ce n'est pas possible. Non. Alors, ya Rasulallah, maintenant, il me faut une séparation. Je ne peux plus vivre avec celui-là et je reconnais qu'il n'a aucun problème, ni au niveau du comportement, ni au niveau du dîn, il est mashallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu lui rends sa dot? Elle a dit, je lui rends sa dot. Il lui a dit alors, accepte la dot, et il a séparé entre eux. Et quand une femme rend sa dot au mari et il se sépare, ce n'est pas un divorce, c'est une annulation seulement. C'est-à-dire que, si jamais il se remarie avec elle une autre fois, hein, c'est comme si il ne l'avait jamais divorcée. Il a toujours avec elle trois fois la possibilité de la divorcer encore trois fois. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais je n'oublierai pas de dire ici très vite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith sahih, qui se trouve aussi dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, qui se trouve je crois aussi dans Muslim, il a dit quoi? Il a dit, il a dit, celle qui demande le khula, muhtali'at, celle qui demande la séparation, le khula, en rendant la dot, ce sont elles les hypocrites. Car dans un autre hadith, il a dit, quiconque des femmes demande à son mari la séparation sans raison valable, elle ne sentira pas, l'odeur du paradis. Non, des fois une femme, sans raison. Regardez, ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve les extrêmes. Surtout, yani en Europe, chez les couples en Europe, il y a vraiment les extrêmes. Wallah. Des fois, la femme, son mari, remplit toutes les conditions. Elle n'a aucun problème avec lui. Et elle demande le divorce. Pourquoi? Seulement, elle se dit, je voudrais me marier avec un autre plus riche, ou plus beau, ou plus ceci, ou plus fort, subhanallah l'adhim. Celle-là, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Après tant d'années de vie, et des enfants, etc., elle veut tout annuler pour une raison qui n'est pas valable. Je cherche quelqu'un de plus beau ou de plus riche. Subhanallah. Les extrêmes, j'ai dit, hein, et d'autres vivent avec des soulards, du matin au soir l'alcool, d'autres avec des hommes qui font la zina, d'autres avec des hommes qui font l'usure, riba, d'autres avec des hommes qui font les grands péchés, la drogue, d'autres avec des hommes qui demandent à leurs femmes, ils leur demandent, tu fais la sodomie avec moi. Et elles ne demandent pas la séparation. C'est vraiment ajib. Quand Allah Ta'ala leur donne de demander la séparation, elles ne demandent pas. Et quand Allah Ta'ala interdit, elles demandent. Je connais une personne. Son mari lui a dit, tu me laisses faire la sodomie. Et plus que cela, tu dis à ta soeur, tu lui dis, si elle accepte, qu'on fasse la zina à trois. C'est-à-dire moi avec toi, qui est ma femme, et ta soeur, elle fait en même temps avec nous. Subhanallah al-Azim. Regardez, il y a ça, subhanallah al-Azim. Moi, quand on me dit des choses pareilles, je reste des fois deux à trois nuits sans dormir. Naam. Je me mets un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, astaghfirullah, jusqu'au matin. Je trouve beaucoup de difficultés à dormir. Non. Il me demande de demander à ma soeur qu'on fasse la zina à trois. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Musta'an. Si au moins, il faisait ça en cachette de moi, en cachette, avec ma soeur, en cachette. Il me demande, il me dit, demande-lui qu'on fasse ensemble. C'est que vraiment... n'aime pas parler, je n'aime pas parler. Il vaut mieux que je me taise. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre inchallah ta'ala dans 5 minutes ou plutôt نعم plutôt dans 2 ou 3 minutes inchallah ta'ala, c'est tout. Muslim, si tu as le Coran, mets le Coran inchallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fais saute. Je n'ai pas terminé. Al-Muhim. Hawla wa la quwwata illa billah. صحتك. نعم. Le prophète, ça m'a rappelé une chose. Le hadith était dans le Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois et s'est assis avec des sahaba. Il était en train de manger quelque chose que sûrement vous ne connaissez pas, vous qui n'avez pas peut-être vu les palmiers devant vous. Non. Le palmier, quand on grimpe sur le palmier pour enlever les dattes, mais si on enlève, il n'y a pas la date, la branche, la grande branche, il y a à l'intérieur quelque chose de blanc, comme des noix de coco, comme ça, quelque chose de blanc qui se trouve à l'intérieur. Non. Et il était en train de manger cette chose. Et il a dit aux sahaba, il leur a dit, le musulman, le croyant, le cœur du palmier. Naam, le cœur du palmier. Jummar, en arabe on dit Jummar. Il leur a dit, le croyant, ou plutôt, il y a un arbre qui ressemble au croyant. Le croyant ressemble à un arbre dont les feuilles ne tombent jamais. Quel est cet arbre? Puis les compagnons ont commencé à dire. L'un il dit c'est le sapin, l'autre il dit par exemple c'est l'oranger, l'autre. Non. Quand ils n'ont pas su, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit c'est le palmier. Cet arbre c'est le palmier. Car le palmier, ses feuilles ne tombent pas, ni en hiver ni en été. Et ça ressemble au croyant qui résiste, il est toujours debout, mashallah. Non. Et il donne des dates. Le croyant donne des dates. Il ne donne pas, quand il donne quelque chose, il donne quelque chose de bon, etc. Subhanallah al-Azim. Le palmier, tu le frappes avec des cailloux, il ne te rend pas un caillou, il te rend une date. Il te fait tomber une date, mashallah. Naam. Quand il a dit comme ça, alors, quand personne n'a connu la réponse, et Omar ibn Khattab, quand il est parti de chez lui avec son fils, Abdullah ibn Omar a dit à son père qui est Omar ibn Khattab, il lui a dit, Wallah, je connaissais la réponse, je savais que c'était le palmier. Il lui a dit, alors mon fils, pourquoi tu ne l'as pas dit? Qu'est-ce qui t'a retenu? Il a dit, la honte, j'ai eu honte, je suis jeune comme ça, je réponds devant. Que lui a dit son père? La in qultaha, ahabu ilayya min kada wa kada. Si tu avais dit seulement, si tu avais dit que je connaissais, et tu avais dit c'est le palmier, et que le prophète alayhi salam t'aurait entendu, pour moi c'est mieux que la dunya et tout ce qu'elle comporte. Subhanallah al-Azim. Il voulait dire, seulement tu m'avais fait ce plaisir de montrer au prophète alayhi salam que tu connais la sunna, tu connais la réponse. Naam. Mais toi tu as eu honte, etc. Et tu t'es tu. Naam. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela pour montrer qu'il est permis de manger quelque chose tout en parlant. Alors le prophète était en train de manger de cette chose, le blanc rada, le cœur du palmier, et il leur posait des questions. Donc il est permis de, par exemple, en train de manger des dattes et de poser des questions à quelqu'un. Parce que moi, je mangeais quelque chose là, pour que vous ne disiez pas, c'est, comment on dit ça, c'est un poli ou quelque chose comme ça. Et premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend de ce hadith que il faut toujours essayer de faire le rapport entre les choses. D'ailleurs, c'est qui l'intelligent? L'intelligent, c'est celui qui, entre deux, trois, quatre choses, il peut faire un rapport et une relation. C'est ça l'intelligent, c'est de faire les relations entre telle et telle chose. Naam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait quoi? Il mangeait le cœur d'un palmier. Et il a demandé, il a posé une question sur un arbre. Alors, essaye de faire la relation entre sa question et ce qu'il est en train de manger. pourquoi spécialement il nous parle d'un arbre? Et pourquoi il est en train de manger? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange quelque chose qui a un rapport avec le palmier. Donc, la réponse, c'est le palmier. Vous comprenez? Il faut toujours essayer, quand quelqu'un nous parle ou là, de faire le rapport entre ce qu'il dit, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a dans la main, pourquoi il a dit cela, etc. On cherche de trouver un rapport pour avoir la réponse, inshallah ta'ala. On commence, inshallah ta'ala, pour vos questions, sans vous dire que, la nouvelle loi, bi'idhnillah ta'ala, dit que quiconque des personnes qui lèvent la main, inshallah ta'ala, ne pose qu'une seule question. Si jamais il pose deux, je les fais choisir entre la première et la deuxième. Sauf si les deux sont, yani, se suivent, sont dans le même sujet, c'est un détail. Non. La deuxième loi, bi'idhn azawajal, c'est que toute personne, disons disposition, c'est mieux que loi. La deuxième disposition, c'est que toute personne qui quitte la salle par déconnexion, par exemple, je lui demande, inshallah ta'ala, de ne pas me demander de la remettre dans la liste, pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Non. Si tu as été déconnecté, ça rentre dans le destin. Qaddara Allahu ma shafa'al. Tu dis, qaddara Allahu ma shafa'al. Non, je ne vais pas poser la question aujourd'hui, ou bien je vais donner la question à une autre personne, peut-être elle la pose à ma place, ou je ne sais pas quoi, si c'est très important. Et la troisième disposition, il est chez moi exactement 23h30. 23h30 chez moi. On termine, inshallah ta'ala, à minuit 30, c'est-à-dire une heure. Je n'ajouterai pas, bi'idhna ta'ala, une minute. Jazakumullahu khairan. Umshi msiddin, hayyakallah, tafadlali. Étoilante, prépare, inshallah ta'ala, la question. Naam. Tafadlal, celui qui lit, tafadlal.
Salamu alaykoum, cher. Je n'ai pas de questions sur le dars, mais j'ai une question très importante pour une sœur. Cher, est-ce que je lis les questions hors sujet ou pas? Cher, tafadlal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Spécialement pour cette sœur qui est en tête de liste, qui a tant attendu, je répondrai à sa question. Les autres, je ne répondrai qu'aux questions qui ont rapport avec le mariage et le divorce. Les autres questions, inshallah ta'ala, le vendredi. Et donc spécialement à celle-là, inshallah ta'ala, où M. Siddin pose ta question, parce que peut-être qu'elle ne savait pas, elle a attendu tout ce temps. Taïb. Lis la question.
Pourquoi ne peut-on pas rentrer dans le salon Ansar al-Tawhid alors qu'ils ne disent pas de mal? Barakallahu fik, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, comme Cheikh Mseddin, celle qui t'a posé la question, ça se voit que elle est débutante dans le din. La preuve, elle a dit ils ne disent pas de mal. Moi, je te dirais que le mal qu'ils disent est plus grave que quand tu rentres dans un salon où on parle de sexualité et de pornographie. Car quand tu rentres dans un salon où on parle de sexualité et pornographie, pardon de ces deux mots, tout le monde sait que c'est haram. Tu dis non, mashallah, moi je suis pieuse, je ne fais pas cela. Mais quand tu rentres dans un salon tawhid, on va te parler avec des versets et des hadiths. Et toi, et quiconque qui est débutant dans le din, ne connaît pas quel est le revers de la médaille et comment peut-on refuter leur délire et ne sait pas que ce qu'ils disent est très grave et qu'ils font partie d'une secte qui s'appelle les takfiriyoun, qui disent que quiconque ne juge pas avec l'islam est un kafir. Ils disent, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. Mais ne veulent pas accepter les détails et comment les sahaba ont interprété ce verset. Car Allah Ta'ala, quand il a dit, quiconque ne juge pas avec l'islam est un kafir, juste après, dans le même verset, il a dit, Et quiconque ne juge pas avec l'islam est un pervers. Et juste après, il a dit, et quiconque ne juge pas avec l'islam est un injuste. Eux, ils ne veulent pas prendre avec les deux versets qui viennent après. Ils disent non, on prend seulement avec le premier verset qui dit, il est kafir. Et nous, on leur dit, pourquoi vous ne prenez pas avec le deuxième et le troisième? Et supposons qu'il n'y ait pas, il n'y a pas le deuxième verset et le troisième. Il y a seulement le premier. Supposons qu'il y ait seulement le premier. Est-ce que c'est vous qui interprétez le Coran ou bien c'est les compagnons qui connaissent le Coran mieux que nous? Vois ça, c'est très grave. S'ils vont dire c'est nous qui interprétons le Coran, on leur dit, mais vous et nous, nous sommes très faibles. On ne connaît pas le sens des choses comme le connaissent les compagnons. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous, on dit on est salafi. Qu'est-ce que ça veut dire on est salafi? On ne comprend pas le Coran et la Sunna comme on veut, nous. Mais on les comprend comme les ont compris les salafs, ceux qui nous ont précédés, les plus prédécesseurs. Alors, Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'un des plus érudits des hommes de la science de l'islam, et qui a été enlacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a fait une doua spécialement pour lui, il lui a dit, oh Allah, apprends-lui l'interprétation du Coran. Que dit Abdullah ibn Abbas? Il dit, ce n'est pas le coffre que vous croyez, vous. Ce n'est pas le grand coffre. C'est le petit coffre ici. Ça veut dire celui qui ne juge pas avec l'islam, en reniant l'islam. Il dit, je renie. Ce n'est pas vrai que je suis obligé de juger avec le Coran. Ce n'est pas vrai. Je peux juger avec la démocratie. Celui-là, c'est un kafir. Mais celui qui dit, je reconnais qu'il faut juger avec l'islam. Mais je n'ai pas jugé parce que je suis faible ou parce que j'ai peur ou parce que je veux l'argent ou parce que je veux voler, je veux ceci. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça, je l'ai montré tout à l'heure, la différence entre quelqu'un qui croit une chose et la fait pas et quelqu'un qui la renie et la fait. Celui qui croit en la chose et ne la fait pas, il est toujours croyant. Celui qui la renie, même s'il l'a fait, il est kafir. Et les gens dont tu as parlé, Ansar Tawhid, en fait, ce sont Ansar, ce sont les ennemis du Tawhid, pas les alliés, parce que dans leur salle, on ne parle que de légiférer avec le Coran. Celui qui ne légifère pas avec le Coran, il est kafir. On ne t'apprend jamais la aqida, ni on te parle d'Allah, ni de ses noms, ni de ses attributs, ni de l'enfer, ni de la tombe, jamais on ne te parle ni du wudu, ni de la salat, ni de la zakat. On te parle seulement celui qui légifère pas avec les lois d'Allah. Et ils oublient que la aqida vient bien avant la loi d'Allah, ce qu'ils appellent eux la loi d'Allah. La aqida, naam, vient bien avant. Car dans la tombe, on va poser trois questions sur la aqida. Naam, trois questions sur la aqida pour commencer. Et Allah Ta'ala pardonne tous les péchés. Sauf la aqida, sauf le shirk. Si tu fais le shirk, il ne te pardonne pas. Naam. Alors, je voudrais dire très vite que quelqu'un qui rentre là-bas, il croit qu'ils sont en train de dire de bonnes choses. Mais s'il savait vraiment quelle est la secte et quel est le minhaj sur lequel il marche, il comprendrait alors très vite que c'est l'un des salons les plus dangereux qu'il a sur le paltok. Ensuite, autre chose. Autre chose très importante, Naam. Naam. J'ai même oublié ce que j'allais dire. Allah la. Vous entendez? Naam. Ça me rappelle Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu. Ça me rappelle Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu. On lui a dit, Ya Abdullah, je parle des takfiriyoun d'autrefois, les khawarij. Lui ont dit, Ya Abdullah, pourquoi tu vas pas au djihad? Ya Abdullah, pourquoi tu ne vas pas au djihad? Il a dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bouni al-Islam ala khams. L'islam a été basé sur cinq choses. Shahada, salah, zakat. Il n'a pas cité le djihad. Il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam est basé sur cinq. Il n'a pas cité le djihad. On lui a dit, alors que vas-tu faire du verset qui dit, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Et combattez-les pour qu'il n'y ait pas de fitna et que le dîn revienne vers Allah. Que que vas-tu faire de ce verset? Tu vas nier aussi? Tu vas dire dans le hadith, il n'y a pas de djihad. Et ce verset qui dit combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que le dîn revienne vers Allah. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, non, c'est-à-dire au temps du prophète, on les a combattus jusqu'à ce que le dîn soit revenu à Allah. Et vous, vous voulez qu'on les combatte, non, pour que le dîn ne soit plus à Allah, subhanallah al-azim. Nous, il a dit, en notre temps, on a combattu, alhamdoulilah, jusqu'à ce que le dîn soit revenu vers Allah. Et vous, vous voulez qu'on combatte jusqu'à ce qu'il y ait fitna. Ce n'est pas pour enlever la fitna. Vous voulez qu'on combatte pour qu'il y ait fitna et pour que le dîn ne revienne pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je veux dire très vite, ceux qui rentrent là-bas ne font pas la différence entre celui qui juge avec l'islam en reconnaissant les lois, en reconnaissant que c'est interdit ce qu'il fait, en reconnaissant qu'il va aller à Jahannam, et celui qui ne reconnaît pas, celui qui dit, c'est la même chose, la démocratie et l'islam, c'est la même chose. Non, ils ne font pas la différence entre ces deux choses-là, c'est pour ça que c'est très dangereux de rentrer là-bas. Ensuite, eux, ils croient que l'islam, c'est seulement les houdoud. Tu coupes la main, tu fouettes, tu lapides. Voilà le jugement d'Allah. Naam, ça veut dire que, autre chose, la aqida, etc., ça n'a pas beaucoup de valeur. L'essentiel, c'est le gouverneur, s'il coupe les mains, etc., voilà l'islam. Même s'il laisse les gens tourner autour de la tombe et faire des doigts aux morts. C'est pas important. Le shirk, c'est quand tu n'appliques pas l'islam dans le gouvernorat, c'est tout. Naam. Les peines corporelles. S'il y a les peines corporelles, c'est un croyant le gouverneur. Même s'il y a le grand shirk et l'adoration des tombes, ça ne fait rien. Naam. Et s'il n'y a pas les peines corporelles, celui-là, c'est un mouchrik. Même si quoi? Même s'il fait la prière, même s'il fait tout, ce n'est pas accepté. Ensuite, autre chose, eux, ils croient que c'est seulement le gouverneur qui doit appliquer l'islam, pas nous. C'est-à-dire que nous, on peut juger à la maison, au travail, avec notre ami, on juge comme on veut. Mais c'est le gouverneur qui doit juger avec l'islam. C'est pour ça qu'une fois j'étais présent dans la salle, une sœur, je me rappelle bien, elle c'était une sœur, elle l'a dit à Salah 19. Elle lui a dit, et l'assurance, pourquoi tu assures ta voiture? Parce que lui, il a dit, si on te vole, si tu fais un accident, c'est interdit que tu ailles au commissariat déposer plainte. C'est interdit, naam, car ils ne vont pas juger avec l'islam. Elle lui a dit, pourquoi toi, tu payes l'assurance, tu donnes au tarout l'argent, hein, à cause de la voiture, il va prendre l'argent, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va construire avec cet argent, des cabarets, etc. Car avec l'argent de l'assurance, on construit ces choses. Pourquoi tu lui donnes l'argent au tarout? Il lui a dit, non, ça c'est une obligation. Regardez la sœur ce qu'elle lui a dit. Elle lui dit, non, ce n'est pas une obligation. Tu peux prendre le bus. Naam. Est-ce que c'est une obligation de prendre la voiture? Ce n'est pas une obligation. Je ne donne pas l'argent au tarout. Jamais. Je lui dis, tu es un tarout. Je ne te donne pas l'argent, l'assurance. Naam. Je vais au bus. Et j'ajouterai moi, il peut aller sur un nan. Naam. Il achète un nan de l'Algérie ou je ne sais pas d'où. Et il monte sur la nan et il va au travail ou je ne sais pas où, sur l'âne. Même la sœur, subhanallah, Allah Ta'ala lui a donné la lumière et elle lui a dit, pourquoi alors tu payes l'assurance? Il a dit, non, ça c'est une obligation. Ça ressemble à ceci, à cette chose. Ça veut dire, c'est halal pour nous. Pour nous, c'est halal. Mais pour vous, c'est haram. Moi, je peux ne pas juger avec l'islam. Mais, naam, je peux. Mais les autres doivent juger avec l'islam. Ensuite, vous savez ce que a dit cette sœur? Allah est témoin de ce que j'ai dit et que j'étais présent dans la salle et que je n'ajoute pas un mot. Si j'ajoute un mot, Allah est témoin. Elle lui a dit avec cette phrase comme ça. Je ne sais pas seulement, je ne me rappelle pas maintenant si elle lui a dit tu ou elle lui a dit vous. C'est tout, ça je ne me rappelle pas. Elle lui a dit, puisque tu ou bien vous, puisque tu es têtu comme un âne, alors je te dis salam alaikum. Ou bien elle a dit, puisque vous êtes têtu comme un âne, je vous dis salam alaikum. Et elle est sortie. Elle l'a laissé, elle est sortie. Elle a employé comme ça, comme un âne. Moi, si quelqu'un me dit, puisque vous êtes comme un âne, je ferme la salle, je ne vais plus jamais l'ouvrir. Naam. Un mohim. Si vous voulez avoir des ajr le jour du jugement dernier, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ne laissez aucune personne, aucune secte vous expliquer l'islam. Dites-moi, dites-lui, expliquez-moi l'islam comme l'ont appliqué les compagnons. C'est pour ça que vous trouvez les gens les ennemis du tawhid, les ennemis du tawhid, n'aiment pas les compagnons. Et n'aiment des compagnons que ceux qui yani, ont des choses, ils croient qu'ils ont des délits. Une fois, je parlais avec quelqu'un de cela. Je lui ai dit, tu es plus savant que Abdullah ibn Abbas. Il m'a dit, alors pourquoi? Qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Je lui ai dit, il a dit, kofr duna kofr. Il a dit, ce n'est pas le grand kofr, c'est le petit kofr. Il m'a dit, moi je ne prends pas avec ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, je prends avec ce qu'a dit le Coran. J'ai dit, Allahu Akbar. Vous voyez la faute, la grande faute, vous voyez ce qu'il a dit. Je ne prends pas avec ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, je prends avec ce qu'a dit le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Abdullah ibn Abbas n'a pas pris avec le Coran. L'interprète du Coran, auquel le prophète Hassan lui a fait la doua spécialement pour lui. Ya Allah, allimhu ta'wil, faqihhu fi din, allimhu subhanallah, faqihhu fi. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends avec ce qu'a dit Allah, je ne prends pas avec ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Subhanallah al-Azim. Vous voyez la différence entre nous et eux? Moi, je comprends le Coran et la Sunna, pas d'après les Mu'tazilites, ou les Chiites, ou les Takfiriyin, ou les Kharijites, ou les Maturidines, ou les Asha'ira, mais je prends, ni les Jahmites, mais je prends d'après qui? Salaf, as-Salih, les compagnons, les grands ulama, ce sont eux qui m'apprennent l'islam. Maintenant, eux, ils n'ont pas de ulama. Leurs plus grands ennemis, ce sont les ulama. Leurs plus grands ennemis, c'est qui? La sœur a dit qu'elle était salafia, elle lui a répondu qu'il n'était pas, que les salafistes n'étaient pas chez eux. Non. Leurs plus grands ennemis, c'est qui? C'est Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Othaymine, Cheikh ceci, Cheikh cela. Ce sont les plus grands ennemis. Non. J'ai entendu ce Salah, Salah 19, la Salah 15, j'ai oublié le numéro qu'il a. Je l'ai entendu avec mes propres oreilles. Allah est témoin si je mens. Il a dit, moi, tout cela, il a commencé à citer. Cheikh Ben Othaymine, Cheikh Ben Baz, Cheikh Foulan. Ensuite, il est allé en Algérie, il a dit, Cheikh Firkous, Cheikh Ramadani. Tout cela, je les ai connus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Allah Ta'ala m'a guidé, je me suis éloigné d'eux. Allah Ta'ala m'a guidé, m'a ouvert mes yeux, je me suis éloigné de cela. De Ben Othaymine, de Ben Baz, de Fawzan, Allah m'a guidé. Je me suis éloigné d'eux et je suis, yani, entre parenthèses, il n'a pas dit, hein, et je suis maintenant Ben Laden et Zarqawi et Laklik. Ce sont ceux-là qui m'apprennent l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous connaissez un égarement plus grand que celui-là? Est-ce que vous connaissez un égarement plus grand que celui-là? Tu arrives chez les grands ulamas et Allah Ta'ala t'expulse. Allah Ta'ala t'expulse et ne t'accepte pas devant eux. Et t'éloigne, tu vas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala prend la science des poitrines des ulamas, il n'y aura plus de alam. Que vont faire alors les gens? Ils vont prendre un jahl. Ils vont prendre un jahl et vont lui dire, c'est toi le plus grand alam. C'est toi qui nous fais les fatwas. Et il va égarer, lui il va s'égarer, il va égarer les gens. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, ne pas perdre beaucoup de temps, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil, je vous donne un conseil. Quiconque, je vous rappellerai demain quand on rencontrera Allah Ta'ala. Vous êtes tous dans la salle d'accord avec moi que demain, il y a un jour où on va rencontrer Allah Ta'ala. Naam. Je vous donne rendez-vous à ce jour-là devant Allah subhanahu wa ta'ala pour vous rappeler ce que je vous disais aujourd'hui. Car vous allez vous rappeler ce jour-là que je vous ai averti plusieurs fois et pris Allah comme témoin qu'ils sont dans l'égarement, et que toute personne qui montre aux autres et leur dit attention, ne rentrez pas dans leur salle, qu'il aura, Inch'Allah Ta'ala, des ajri yawm al-qiyama. Pourquoi? Pour avoir préservé le vrai din, celui que Allah Ta'ala fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les compagnons ont suivi. Et que quiconque, quiconque fait le djihad à ceux-là, comment tu leur fais le djihad? Tu vas les tuer, tu vas rentrer dans la salle et les tuer. Tu fais le djihad en montrant aux gens que ce sont des innovateurs. Attention, Salah 19 et Saklik, ce sont des innovateurs. N'y rentrez pas. La malédiction peut descendre chez vous. Vous allez avoir des virus. Vous allez mourir innovateur. Allah Ta'ala, l'un des plus grands péchés, c'est l'innovation, juste après le shirk. Il y a le shirk, ensuite l'innovation. Attention que vous mouriez dans l'innovation. Attention que vous mouriez dans l'innovation. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après la compréhension des salaf et des grands ulama, non pas d'après la compréhension des innovateurs et de ceux qui sont connus que ce sont des sectes égarés. Taïb, voilà, inshallah ta'ala, la réponse. On passe à étoilante. Tafadhali bi'idhna azzawajal. Naam. Étoilante, est-ce que tu es là, inshallah ta'ala? Yachir et moi, Ismaël, je ne savais pas que tu avais la main levée. Ma'alish, inshallah ta'ala, juste après elle, inshallah ta'ala.
Salamu alaykoum, Cheikh. Hayakoum Allah. Voici ma question. Il existe un moyen de contraception, il y en a deux sortes. Le premier détruit les spermatozoïdes lors de leur passage dans l'utérus. Le cuivre du stérilet modifie également l'endomètre, entre parenthèses, couche interne de l'utérus, rendant impossible l'implantation d'un œuf fécondé si cela arrivait. Le deuxième épaissit le mucus, entre parenthèses, sécrétion qui protège les muqueuses, du col pour empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. La progestérone amincit également la paroi de l'utérus pour empêcher l'implantation d'un œuf fécondé si cela arrivait. Il est donc possible qu'un œuf soit fécondé et que le stérilet empêche son implantation dans l'utérus. Je voulais savoir si ce moyen de contraception était permis. Et est-ce qu'il y a des moyens de contraception interdits? Ou est-il préférable de seulement de faire le az?
Avant de répondre à la sœur, je voudrais dire très vite, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai peur que j'ai oublié dans ma réponse à la première question de dire cela, je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas dit. Je dis que, sachez qu'en islam, toute personne, moi, toi, ton père, ma mère, toute personne doit juger avec l'islam. Seuls les tekfiriyoun disent que seul le gouverneur doit juger avec l'islam. Nous tous, je juge avec l'islam chez moi, dans mes habits, dans mon comportement, ma façon de manger, tout ça, je dois juger avec l'islam. Non, ce n'est pas seulement le gouverneur qui juge avec l'islam. Allez, premièrement, et je vous ai cité une fois le hadith dans le Bukhari, que quelqu'un a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « En kana ibn ammatak », il lui a dit, tu as donné de l'eau à cette personne, que cette personne, c'est ton cousin. Cette personne, c'est ton cousin. Et le prophète, alayhi wa sallam, s'est vraiment énervé. Et Allah Ta'ala a fait descendre le Coran, il a dit, « Fala wa rabbika la yu'minun, hatta yuhakimuka fima shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. » Quand cette personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as fait cette chose parce que c'était ton cousin, tu as pistonné, Allah Ta'ala a fait descendre un verset où il a dit « Fala wa rabbika la yu'minun » Je jure par Allah, c'est-à-dire Allah jure par lui-même, je jure par moi-même que ce ne sont pas des croyants. Jusqu'à ce que, voilà le dars, jusqu'à ce que il juge par toi, c'est-à-dire par l'islam. Ils te prennent comme juge, toi. Donc, vous voyez, celui-là, ce n'était pas un gouverneur. C'était une personne, un simple paysan. Un paysan n'a pas accepté le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a fait descendre le verset comme quoi il n'était pas croyant. Voilà, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils pourront demander de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse parce que tu as décidé et qu'ils nous soumettent complètement à ta sentence. Ils ne seront pas croyants. Pourquoi? Pour montrer que ce n'est pas seulement le gouverneur qui doit juger, mais toutes les personnes doivent juger. Vous voyez ce paysan, Allah Ta'ala, il lui a dit, tu n'es pas croyant jusqu'à ce que tu juges. Elle dit, premièrement, donc, ce n'est pas seulement le gouverneur qui juge. Deuxièmement, cette personne qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait du piston. Ça, elle lui a dit, c'est ton cousin, c'est pour ça que tu lui as donné l'eau. Tu n'as pas donné à moi. L'eau, ce n'est pas pour boire, pour, comment dire ça, quand on a un jardin, etc., pour l'arroser. Naam. Est-ce que, regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas croyant, ils ne seront pas croyants. Quelqu'un qui sort de l'islam, qu'est-ce qu'il faut lui faire en islam? Naam, quelqu'un qui est musulman, ensuite il sort de l'islam. Il insulte, Allah lui fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit lui faire en islam? Ismaël, tu connais la réponse? Réponds-moi si tu connais la réponse. Quelqu'un qui sort de l'islam, c'est quoi le châtiment de l'islam? Dis-moi si tu connais la réponse. Ismaël ou la, alhamdoulilah, Rida, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait? Classe, il est Rida, qu'est-ce qu'on lui fait? Al-Qatl, Jazakallahu khair. Il doit mourir. Il doit mourir. Mais voilà la question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué cette personne qui a dit ça? Qui lui a dit, tu as pistonné. Et Allah Ta'ala a dit, ce n'est pas un croyant, jusqu'à ce qu'il juge avec l'islam. Est-ce que Allah Ta'ala l'a tué? On ne l'a pas tué. Est-ce que le prophète l'a tué? Il ne l'a pas tué. Alors que, en islam, on doit tuer quelqu'un qui fait la rida. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce que ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit en reniant cela. Il ne l'a pas dit en reniant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ne pas accepter la chose, mais dans son cœur, on sait que c'est vrai et qu'on doit la faire. Naam. Je ne mets pas le djilbab, mais je sais qu'il faut le mettre. Et si je meurs, je vais aller en enfer. Non, celui-là, il est toujours croyant. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas tué. Et le hadith est rapporté par le Bukhari, naam. Et plus grave que cela, plus grave c'est quoi? C'est que le négus n'a pas jugé avec l'islam. Il est resté 20 ans, je ne sais pas combien, et il n'a pas jugé avec l'islam. Alors que Ja'far, radiyallahu ta'ala anhu, lui a montrer beaucoup de choses dans la charia. Il lui a dit, il faut faire la salat, la zakat, le bon voisinage, ne pas mentir, ne pas adorer les statues. Il n'a rien fait de cela. Il pouvait appliquer un minimum. Il n'a rien appliqué. Naam. Et le prophète n'a pas dit de lui que c'était un kafir. Il a dit, on fait la salat sur lui et il a fait la salat sur lui. Pour revenir à la question de la sœur, je voudrais dire très vite que en principe, naam, on ne va pas au stérilé. Si la femme n'est pas dans un grand besoin, comme maladie, elle a peur que si elle tombe enceinte, elle peut y aller, avoir des complications, mourir, etc. Naam. Et deuxièmement, quand elle va faire un stérilé, il faudrait que ce soit une femme qui le fasse, pas un homme. Une femme, première condition. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui met le stérilé, parce que ce n'est pas une obligation. Non, il n'y a pas une darura. Il n'y a pas une darura. Pourquoi je mets le stérilé? Je vais montrer mes parties mes plus intimes à une femme sans excuse. Ce n'est pas une excuse de ne pas vouloir avoir d'enfant, ou de vouloir, par exemple, organiser. Ce n'est pas une excuse. Non. Surtout que, et voilà l'autre partie de la question, surtout qu'il y a le azl. Il y a le azl. Je connais des personnes qui ont fait le azl pendant des années et des années. Je connais des personnes qui ont fait le azl pendant des années et des années et Ibn Azzawajal n'ont pas eu d'enfants. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il y a une issue qui s'appelle le azl, alors qu'elle qu'il fasse le azl, ou alors qu'il achète quelque chose qui se vend chez les pharmaciens, que l'homme peut mettre avant de faire le rapport, l'homme peut mettre ensuite le liquide ne peut pas pénétrer chez la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Voilà bi'idna azza wa jal mon avis. Non. Abu wa abd kada. Ismaïl tafadla, je t'ai oublié. Ismaïl tafadla. Non, fiche mouchkin, inshallah.
Salam alaikum wa rahmatullah, fi saout.
Salam alaikum wa rahmatullah. Je crois que Ismaïl s'est déconnecté, Allah ta'ala a'lam. Non, parce qu'il n'y a pas de sang. Qui s'est déconnecté. Tu es là. On t'a entendu quand tu as dit salam alaikum, ensuite il n'y avait rien. Tfadlal, prends le micro une autre fois, inshallah. Tfadlal.
Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a du sang. Est-ce qu'il est permis de faire salat al-janaza sur concernant le négus? Est-ce qu'il est permis de faire salat al-janaza sur un corps qui est absent, qui n'est pas devant nous? C'est-à-dire que nous, on est en France et on fait salat al-janaza pour un corps qui est au bled. Barakallahu fikoum, mes chers.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand une personne meurt dans un pays où on ne fait pas la salat sur elle, alors les musulmans dans d'autres pays font la salat sur elle. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Najashi, le Négus, quand il est mort dans son pays, en Éthiopie, il était le seul croyant. Et personne n'a fait la prière sur lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui à Médine. Mais si cette personne, les gens ont fait la prière sur elle dans son pays, alors ce n'est plus de la sunna de faire la salat sur elle dans un autre pays. Naam. Et, entre parenthèses, je dis aussi que c'est dans la sunna, si quelqu'un, par exemple, perd par exemple quelqu'un dans un autre pays, et que quand il va vers ce pays, il va chez la tombe et il fait la prière sur lui. Ça aussi, c'est de la sunna, à condition que qu'il soit Yani, lorsque la personne est morte, que cette personne qui va faire la prière sur elle soit déjà pubère. Naam. Tfadlal, inshallah ta'ala, l'abou wa Abdurrahman. Wafikum. Tayyib, abou wa Abdurrahman. J'attends toujours, Inch'Allah, sauf s'ils ne sont pas là. Abu wa Abdurrahman, si vous êtes là, écrivez numéro 1. Sinon, Ismaïl, prépare-toi. Alhamdulillah. Donc, je vous attends, Inch'Allah, tafadhalou. J'avertis mes frères et mes sœurs qui sont dans la salle que si jamais il y a quelqu'un qui vous envoie des liens, faites-moi part. Naam. Apprenez-le moi, parce qu'on vous envoie des liens de takfir, etc. Et les débutants qui n'ont pas assez de din vont rentrer et se tromper. Ils vont trouver des ayats, des versets, etc. Et on va les tromper. C'est pour ça, s'il y a quelqu'un qui vous envoie des liens, dites-le moi, car c'est une amana. C'est une amana. Vous êtes dans mon salon, Inch'Allah ta'ala, et c'est une amana de me dire ce qui se passe dans mon salon et de ne pas me cacher bi'idna azza wa jal. Naam.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les questions avant que ce soit leur tour. Barakallahu fikoum. Voilà, Naam, cher. Inch'Allah. Tapez un, Inch'Allah, lorsque la question est terminée. Barakallahu fikoum. Yani pour les personnes. Je viens de recevoir un PV, là. On me demande si je pouvais poser une question pour le shir. Il faut lever la main, Inch'Allah, et prendre son tour. Barakallahu fikoum. Abu wa Abdurrahman, est-ce que la question est terminée, Inch'Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Voilà, c'est une question un peu délicate. Un homme a une attirance pour les hommes. Yani, il est homosexuel. Il est revenu à la religion avec la bonne aqida et s'y accroche. Il s'efforce et arrive à s'éloigner de cette chose car il est conscient que c'est illicite et très grave. Mais il ne veut pas se marier. Mais que peut-on lui conseiller? Que doit-il faire pour combattre ça?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cette personne devrait savoir tout d'abord que ce qu'elle fait est très grave. Et الحمد لله elle le reconnaît, elle dit je sais que c'est très grave. C'est grave au point où toute personne qui fait cela en islam doit être tuée. Non, toute personne qui fait cela en islam doit être tuée. Alors que si elle fait la zina, elle ne doit être tuée que si elle était déjà mariée auparavant. Vous voyez la différence, que c'est plus grave en islam. Si quelqu'un fait la zina et il ne s'est jamais marié, on ne le tue pas. On le fouette, c'est tout. On le fouette, c'est tout. Ça. Mais si quelqu'un fait cette chose, l'homosexualité, il doit être tué, même s'il ne s'est jamais marié. C'est dire que c'est plus grave que la fornication. Et les ulamas ont divergé comment on tue l'homosexuel. L'homosexuel, que ce soit homme avec homme ou femme avec femme, la même chose. Ils ont dit, certains ont dit, comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, on les brûle vifs. Comme ça, vivant, on le brûle. Et d'autres, comme Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, a dit, on les fait monter dans le plus grand, le plus haut sommet qu'il existe, par exemple montagne ou bien immeuble ou bien je ne sais pas quoi, et on les jette d'en haut vivant. On le jette d'en haut vivant. Imaginez son supplice, subhanallah al-azim, on le jette du 20e étage, ou maintenant je ne sais pas, aux États-Unis il y a le 100e étage, etc. C'est vraiment grave. Naam. Alors, déjà le frère, c'est, alhamdoulilah, la portée de cette chose, et ce qu'il fait est vraiment grave. Et s'il y a des femmes qui savent cela, elles savent aussi que c'est très grave pour elles. Là, c'est dans la vie. Qu'en est-il demain lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, cette personne, cet homme-là, naam, doit beaucoup s'occuper de la science, naam, qui remplit le cœur de lumière, être beaucoup avec les frères dans la mosquée, écouter beaucoup les doros, lire beaucoup les livres de science, et comme ça, pour que son cœur soit illuminé, plein de lumière, et qu'il déteste cette chose, peut-être que maintenant il ne veut pas se marier, peut-être qu'il se sent faible encore et qu'il a peur que s'il se marie, il ne va pas se marier. Se marier n'est pas obligatoire. Se marier n'est pas une chose obligatoire pour quelqu'un qui a des raisons valables. Ibn Taymiyyah lui-même ne s'est pas marié. Ibn Nawawi Allahyarhamou ne s'est pas marié. Non. En principe, on se marie. Mais on peut avoir des excuses valables. S'il sait par exemple de lui que, si c'est de lui par exemple, que en approchant une femme, jamais il ne ressent quelque chose. Alors celui-là, pourquoi va-t-il se marier pour yani, faire souffrir la femme avec laquelle il va se marier? C'est pour ça, les hommes qui font cette chose, ce ne sont pas tous au même degré. Ils varient. On a qui ont fait cette chose depuis 20, 30 ans, 40 ans. C'est un peu difficile pour lui, pour qu'il sente quelque chose envers la femme. Il y en a qui sont nouveaux. Ensuite, il y a autre chose. Il y en a qui, lorsqu'il rentre dans le din, mashallah, il rentre à fond, de façon à ce qu'il change complètement. Il devient une autre personne et ils peuvent se marier vite, etc. Et il y en a d'autres qui rentrent dans le din, mais difficilement. Ils s'accrochent difficilement. Ils tombent et ils se relèvent. C'est pour ça qu'on doit aller avec cette personne doucement, doucement, jusqu'à ce que elle sente d'elle-même qu'elle est, inshallah ta'ala, assez forte pour pouvoir se marier. Il s'occupe de la science, il reste avec les frères, mais il a une attirance envers les frères. Naam, cette attirance, bi'idhnillahi ta'ala, il va la combattre avec sa foi. Il va la combattre avec sa foi. Des gens, à cause de la foi, ont délaissé des choses beaucoup plus importantes que cette attirance homosexuelle. Naam, est-ce que vous connaissez quelque chose de plus difficile que la drogue? Des gens, la drogue, qui ont pris la drogue pendant 20 années, 30 ans, ils l'ont délaissé pour le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour le visage d'Allah, ils ont délaissé la drogue. Naam. Et il y a beaucoup, beaucoup d'homosexuels qui sont rentrés en islam et qui, alhamdoulilah, leur islam est l'un des plus beaux islams. Naam. Ils se sont devenus des frères, masha'Allah, et des frères très pratiquants, alhamdoulilah. J'encourage ce frère Bilal Azzawajal pour qu'il s'accroche et qu'il s'agrippe, car demain, il va rencontrer Allah Ta'ala. Et ce jour-là, personne ne pourra te sauver. Ni X, ni Y, ni le roi, ni ton père, ni le ministre, ni le général. Personne ne pourra te sauver ce jour-là, sauf ce que tu as fait dans cette vie comme bonne œuvre. Ce jour-là, tu seras vraiment content d'avoir obéi à Allah et d'avoir, quoi? D'avoir fait la guerre à ton nefs, à ton âme, jusqu'à ce qu'elle se redresse. Elle se redresse, l'âme, pour qu'elle ne transgresse pas les lois d'Allah Azzawajal. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yahfazahu, wa an yu'inahu, wa an yuthibbitahu, wa an yub'ida anhu al-shar, wa an yahdiyahu, إلى الطريق المستقيم وأن يقوي قلبه وأن يشرح صدره لهذا الدين وأن يحبب إليه الإيمان وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل إسماعيل. يعني نوتر إسماعيل. نعم. كي سابيل ناتون 327. إسماعيل أستوي أبيك نو إن شاء الله تعالى. إسماعيل دو بلجيك. Est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah ta'ala? Tafadhal, je te donne le micro.
Est-ce que vous m'avez entendu, Barakoulou? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Le micro, ça m'énerve, ça. Bon, voilà ce que je voulais savoir, en fait, pour être bref. Ce que dit la charia à propos de mariage homosexuel, puisque vous en avez parlé, et je voulais aussi vous demander, cher Barakoulofikoum, si vous pouvez ouvrir votre privé maintenant, parce qu'il y a le frère Abou Marwan qui m'a transmis une question, et alors, comment dire, comme elle est longue, je crains de ne pas pouvoir la mettre dans la room. Et c'est pour ça que je vous demande si vous pouvez ouvrir votre privé afin que je puisse immédiatement vous envoyer sa question, si c'est possible, bien sûr. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que vous m'avez entendu cette fois. Assalamu alaikum.
Ismaël, qu'est-ce que tu as dit à propos du mariage homosexuel? J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. Naam, quel est le jugement du mariage homosexuel? S'il sait qu'il peut faire ce que fait l'homme, il se marie. S'il sait que il peut faire ce que fait l'homme, il se marie. Naam. Et s'il sait qu'il ne peut rien faire, alors il ne se marie pas, pour ne pas tromper la femme. Maintenant, s'il y a une femme qui l'accepte et elle sait que il ne peut rien faire, elle est libre. Ils peuvent se marier. Naam. Car c'est son droit à elle. Et elle a quoi? Elle a accepté de ne pas avoir de droit. Naam. C'est comme si elle dit, j'accepte que tu ne me fasses pas manger. J'accepte que tu ne m'achètes pas des habits. J'accepte que tu ne dors pas avec moi. C'est la même chose. Il lui dit, voilà, je ne peux jamais toucher une femme. Elle lui dit, ça ne fait rien, je t'accepte. Le mariage est valable. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Allah alim, je pense que le frère disait, qu'en est-il si deux hommes se marient? Si deux hommes se marient en islam, les deux sont tués. Les deux, l'islam les tue. C'est pas nous qui les tuons, attention. Hein. C'est le gouverneur. On dit, voilà, il y a deux hommes qui se sont mariés. Et c'est le gouverneur qui, inshallah ta'ala, met fin à leur vie, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tayyib, Isa, tafaddali.
Assalamu alaykoum. Est-il un devoir pour le musulman d'essayer d'arranger les choses s'il est au courant qu'il y a des problèmes dans un couple et qu'ils veulent en arriver au divorce? D'essayer d'arranger les choses. Et Cheikh Nathan, il demande d'ouvrir son PV. Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Assalamu alaykoum. Est-il un devoir pour le musulman d'essayer d'arranger les choses s'il est au courant qu'il y a des problèmes dans un couple et qu'ils veulent en arriver au divorce? D'essayer d'arranger les choses. Car beaucoup de gens disent « Je ne rentre pas dans les problèmes. » Barakallahu fikoum.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man istata'a an yif'ala akha, falyif'al. » Hadith se trouve dans Sahih Muslim. Il a dit « Quiconque peut aider son frère qu'il le fasse. » Or, il n'y a pas quelque chose de mieux dans l'aide que d'aider un couple pour qu'il se marie, pour qu'il ne se divorce pas. Il n'y a pas une aide, mashallah, que d'aider un couple pour qu'il ne divorce pas. Et il ne faut pas dire ce n'est pas mon problème, mais si on peut, on sait qu'on ne va pas avoir de problème, on essaye. Si on peut, je dis, si on peut, et on sait que le problème ne va pas se retourner sur nous, alors quand on essaye, on aura beaucoup de récompenses. Mais des fois, je dis des fois, pour certains couples, le divorce est mieux. Pour certains couples, naam, quand une femme vit avec un clochard, naam, et qui à chaque fois, on lui fait la nasiha, il n'arrête pas, il reprend. Et il n'arrête pas, il reprend. Il n'arrête pas, il reprend. Et il la frappe. Et il la maltraite. Et ceci, cela. Tu ne crois pas que pour cela, il serait mieux qu'elle divorce et aille vivre avec un autre? Non. Mais en général, on essaye au maximum, inshallah ta'ala, d'aider. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Non. Abu Kamila, tafaddal.
Assalamu alaykum. C'est une question pour ma petite sœur. C'est une reconvertie. Elle veut se marier avec un musulman, mais elle n'a pas de tuteur. Alors, comment doit-elle procéder, en sachant qu'elle n'a aucun mahram musulman?
Salam alaikum wa rahmatullah. Naam, pour la reconvertie, qu'est-ce qu'elle fait? Tayyib. Naam. Pour la reconvertie, qu'est-ce qu'elle fait? Vous connaissez la règle? Elle commence, puisqu'elle n'a dans la famille aucune personne qui est musulmane et qui peut être son tuteur, aucun homme, alors elle commence par ce qu'on appelle le consulat ou quelque chose comme ça. Elle va par exemple, bon, si son mari par exemple est algérien, ils vont par exemple au consulat algérien. S'il est marocain, ils vont au consulat marocain. Et ils disent par exemple, voilà, on voudrait nous marier. Est-ce que vous pouvez nous marier? Sinon, il n'est aucun des deux. Ça ne fait rien. Même s'ils ne sont pas des deux, ils vont dans un truc qui a rapport avec les musulmans. Sinon, ils vont par exemple à la grande mosquée. Naam, par exemple, la grande mosquée de Paris, par exemple, où c'est connu. Naam, et ils demandent, est-ce que là-bas, on marie? S'ils ne trouvent pas, ils disent non, il n'y a pas, etc. Ils se marient, ils cherchent un imam. Qui sera son tuteur? Elle cherchera un imam et elle lui demandera qu'il soit son tuteur pour la marier. Si maintenant elle ne trouve pas quelqu'un qui est imam, qui peut être son tuteur, elle pourrait dans la on m'a dit imam d'État. Naam. Sinon, dans le quatrième cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un frère. Elle prend un frère et quelqu'un qui, inshallah ta'ala, est assez pieux, elle lui demanderait qu'il soit son tuteur pour la marier bi'idhna azzawajal. Donc, on commence par étape, comme j'ai dit tout à l'heure. On commence par étape. Naam. Et ensuite, si son mari, c'est le genre, par exemple, qui par exemple est algérien ou là, qui va dans un pays arabe, il peut se marier avec elle là-bas. Il peut se marier avec elle là-bas. Mais s'il est toujours dans son pays, il peut faire ce que j'ai dit. Il commence par un consulat ou alors à grande mosquée ou alors un imam, n'importe quel imam d'une mosquée, pourvu que la mosquée soit une mosquée officielle, par exemple, et l'imam est connu. Ensuite, sinon, cherche un frère pour lui répondre bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Voilà, inshallah, réponse bi'idhnillahi azza wa jal. Din al-Islam, tafadhal.
Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Une sœur divorcée ayant des filles peut-elle voir son frère marier ses filles, tout en sachant que son frère porte la barbe, car le père et les autres personnes mahram voulant les marier ne portent pas de barbe. Barakallahu fikum, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, une sœur divorcée ayant des filles peut-elle voir son frère marier ses filles? Non. Tout en sachant que son frère porte la barbe, son frère, car le père et les autres personnes mahram où vont les marier ne portent pas la barbe. Non, on commence par le père, même s'il ne porte pas la barbe. Non, on commence par le père, même s'il ne porte pas la barbe. C'est lui, inshallah ta'ala, qui doit marier. Car je l'ai dit dans le dars, si on allait suivre cette chose, alors aucune femme ne se marierait. Parce que le père, ou bien ne porte pas la barbe, ou bien le père, de temps en temps, il regarde la télévision, il regarde des choses haram, ou bien ceci, ou bien cela. Naam. C'est l'essentiel, c'est quoi? C'est, yani, que on regarde, nous, pardon, j'ai dit on regarde. L'essentiel, c'est quoi? C'est que les conditions existent. Quelles sont les conditions? C'est qu'il y a le tuteur. Le tuteur, et il y a les témoins. Naam. C'est dans les témoins qu'on doit chercher quoi? Les conditions. Naam. Parce que les témoins, on peut vite en changer. Ces deux-là ne nous plaisent pas, on fait venir deux autres. Mais le tuteur, des fois, on n'a pas le choix. Il est là, il n'a pas de barbe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est pas de ma faute. À cause de sa barbe, je ne vais pas me marier. Donc, il peut marier. Le tuteur qui porte la barbe, à barbe ou qui fume, peut marier sa fille. Et la fille de sa fille est comme ça. On commence par lui. Tant que lui existe, on ne peut pas sauter à l'autre, Naam, à cause de sa barbe. Bi'illah azawajal. Naam, certains ulama ont dit, ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas la vie le plus juste de nos jours et de notre temps. De nos jours, où la foi est mince et faible, Naam, et la piété est peu, Naam, la vie le plus juste, comme a dit Cheikh, c'est l'autre. C'est de ne pas beaucoup donner de conditions au tuteur. Naam. Ne pas, yani, comment dire, ne pas yani, rendre les choses difficiles avec le tuteur. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hassan, tafadhali.
Salamu alaykum wa rahmatullah, Cheikh. Est-il permis de se marier avec une personne qui ne suit pas le minhaj salafi et qui se dit être un simple musulman? Entre parenthèses, c'est-à-dire que cette personne ne suit aucun mouvement. Jazakallahu khair.
Salam alaikum. Tayyib, je disais, c'est très difficile à une personne, Naam, de se marier avec une autre personne qui ne lui ressemble pas dans le minhaj. C'est vraiment difficile, Naam. C'est vraiment difficile, je dis, en islam, de se marier avec une autre personne s'ils ne sont pas dans le même minhaj. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Non. Parce que ils n'ont pas la même vision des choses. Ils n'ont pas la même vision des choses. Et il leur sera difficile de yani, conduire le bateau dont ils sont maintenant shurka. Ça, ils sont associés dans le même bateau. C'est difficile de le conduire avec quelqu'un qui veut dire on va tourner à droite et l'autre qui veut dire on va tourner à gauche et comme ça. Non, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas la même vision des choses. Ils n'ont pas. C'est pour ça que je conseille à toute personne, non, qui est dans le minhaj, de ne se marier qu'avec une personne qui est dans le minhaj. Non, une seconde, une seconde. Non, Attends, Ismaël, je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala. Je dis que. Je dis que, non, une personne qui est par exemple dans le minhaj, il lui est très difficile de se marier avec une personne qui n'est pas dans le minhaj. Parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Je vous dis seulement, pour que vous compreniez ce que je veux dire et que vous ayez une idée de ce que je veux dire, regardez, une sœur me dit, mon mari me demande de faire la sodomie. Et, masha'Allah, il a une barbe, masha'Allah. Il dit, comment? Il a une barbe, masha'Allah, et qu'elle demande de faire la sodomie. Il ne sait pas que c'est la malédiction d'Allah, que c'est un grand péché. Elle dit, si, il sait. Je lui dis, alors, comment? Elle me dit, c'est un tabliri. Vous voyez, tablir? C'est un tabliri. Le tablir, pour lui, il accepte. Imagine, ma soeur, toi qui m'écoutes, imagine tu es marié avec un tabliri et il veut te forcer pour faire la sodomie. Après 10 ans de mariage ou là maintenant, tu es obligé de divorcer. Comment vas-tu faire? Tu vas divorcer les enfants, où vas-tu habiter? Pourquoi il veut faire la sodomie qui est haram? Est-ce qu'un salafi te demanderait de faire la sodomie? Tu ne demanderais pas, il est dans le minhaj. Il sait ce que c'est. Il a le cœur illuminé. Et comme ça. Et je connais des gens qui voudrait joindre entre les deux sœurs. Il fait avec sa femme ce qu'il fait, il veut faire aussi avec sa sœur. Aussi. Ils ne sont pas dans le minhaj, avec des barbes. Alors, attention, la barbe ne veut pas dire grand-chose. C'est le minhaj. Naam, le minhaj. Attention. Beaucoup de gens avec la barbe font des choses. Si je vous les citais ici, vous allez dire non, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Et je dis, je jure par Allah qu'ils font ces choses. Alors attention, choisissez bien celui avec lequel vous allez vous marier. Mais là, j'ouvre une parenthèse pour dire que des fois, la sœur se trouve dans un état où elle n'a plus de choix que une personne, par exemple, qui se dit, comme elle dit ici, tout juste musulman. Non, maintenant, il n'y a plus de prétendant. Que faire? Ne pas me marier du tout, me marier avec quelqu'un qui dit je suis juste musulman. Que faire? Je me marie avec lui et je lui fais des nasihats, je lui fais ceci et je lui dis qaddar Allahu ma sha'a, wa ma sha'a. Il n'y a pas d'autre solution. Mais si j'ai le choix, je commence par celui qui est dans le minhaj, celui qui a la même vision que moi. Si il y a une divergence, vite, on revient au Coran et à la Sunna. Mais l'autre ne va pas revenir à la Coran, à la Sunna, celui qui n'est pas dans le minhaj. Mais, je redis encore, des fois on est dans un cas où la ghalb, je n'ai pas de solution. Je vais mourir vieille ou bien me marier avec quelqu'un qui est tout juste normal. On demande à Allah de m'aider pour se marier avec lui, pardon, pour que yani, il devienne bien, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib. Ensuite, j'ai une question maintenant à laquelle je vais répondre, mais. Celui qui m'a posé cette question, je lui dirai que je réponds seulement pour toi, Inch'Allah Ta'ala. Car quand je réponds aux gens comme ça, je n'aime pas qu'on m'envoie des PV pour me poser des questions. Non, pourquoi? Parce que il y a des gens qui attendent depuis des heures et des heures et je ne leur ai pas répondu à leurs questions. Et ils vont dire pourquoi nous, il ne répond pas, il répond à celui-là qui lui a envoyé un PV. Bien sûr, vous allez dire. celui qui m'a envoyé en PV a dit que c'est important. Naam, l'autre aussi dira, ma question est plus importante. Car chacun dit, ma question est plus importante que l'autre. Naam. Donc, je réponds spécialement à cette personne. Il dit, est-ce qu'en islam, il est prouvé que la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, qu'elle s'appelait Fatima Zahra, ou bien qu'elle s'appelait seulement Fatima. Je lui dis, bi'idhna azza wa jal, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin, il n'y a aucun hadith, ni quelque chose d'authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa fille Fatima s'appelait Fatima Zahra ou bien s'appelait Fatima al-Batul. Naam, ces deux adjectifs, Zahra et al-Batul, ce sont deux adjectifs qui ont été inventés par les chiites. Les chiites ont inventé ces deux mots, ils ont ajouté Zahra et ils ont ajouté al-Batul. Les deux n'existent dans aucun livre authentique ni dans un hadith qui revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama ont cité cela dans leurs livres et ils disent Fatima Zahra a dit ceci, a dit cela, mais le dalil, ce n'est pas ce que disent les ulama. Le dalil, je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais appelé Fatima Zahra, ni elle m'a dit je m'appelle ainsi, ni les compagnons l'appelaient ainsi. Naam, ni le Betul. Elle s'appelait seulement Fatima. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut lui dire, on lui dit Abu Fatima, et non pas Abu Fatima Zahra. Naam. Et beaucoup de gens ne savent pas cela. Pourquoi je dis beaucoup de gens? Moi, le premier, subhanallah l'adim, reconnaître une faute, c'est quelque chose d'obligatoire, ce n'est pas aïb. Moi, le premier, j'ai une fille qui s'appelle Fatima Zahra. Moi aussi, moi j'ai une fille qui s'appelle Fatima Zahra. Pourquoi? Parce que quand je l'ai appelée comme ça, je ne savais pas. Je croyais que la fille du prophète s'appelait Fatima Zahra. J'ai une fille qui a 22 ans. Hein? Les frères, je ne vais pas la marier avec vous, attendez. Je disais que elle s'appelle Fatima Zahra. Moi, quand je l'ai appelée, je ne savais pas. Je croyais que c'était la sunna. Après, j'ai su que Zahra a dit ça n'existait pas. Qu'il fallait l'appeler seulement Fatima. Wallahu ta'ala alam. Naam. Tayyib. C'est à qui, inshallah, le tour? Naam. Ismaïl, c'est à qui le tour? Hassan, wafiki barakallah. Grande étoile, tafazali. Naam, grande étoile, tafazali.
Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que je peux vous parler en privé? Je voudrais vous parler, c'est une histoire urgente. Sinon, à quelle heure pourrais-je vous téléphoner le plus tôt possible? C'est sur le dars, ce n'est pas hors sujet. Mubarakallah, wafiki, Cheikh, pour tout ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah ya Cheikh.
Premièrement, ce n'est pas interdit, naam, ni aïb, de poser une question comme ça dans le salon. Au contraire, ça permet aux autres, inshallah ta'ala, de connaître le cas et d'avoir un peu plus de science en connaissant quelque chose de nouveau. Deuxièmement, quand une personne pose une question, elle n'est pas obligée de dire que c'est mon cas. Une sœur va poser une question qui a rapport avec son cas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, une sœur dit. Naam, qu'est-ce que ça veut dire? En parlant d'elle, elle dit, une sœur dit. Ça, c'est une sœur qui a dit, c'est-à-dire moi. Et elle n'a pas menti. Celui qui est allé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans le Bukhari muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé au prophète. Le prophète a dit qu'une personne est allée chez un prêtre, ensuite chez un alim. Elle lui a dit, il a tué 99 personnes. A-t-il une tauba? Il a tué. Ensuite, il l'a tué, bien sûr. Il est allé chez un alim. Il lui a dit, il a tué 100 personnes. A-t-il une tauba? Il parlait de lui, il a dit, il a tué. Non, une sœur peut poser une question et dit, une sœur dit. Ça veut dire, moi je dis. Mais nous, on ne peut pas savoir si c'est toi ou si c'est une autre sœur. Al-Mohim, demain, inshallah ta'ala, c'est quoi? Demain, inshallah ta'ala, c'est quoi? Demain, inshallah ta'ala, si tu peux, bi'idhillah ta'ala, téléphone entre... Attends, je vais voir l'asr. Ici, c'est quand? L'asr, c'est 2h30, c'est 13h. 2h30, 3h, 3h chez vous, c'est 1h. Non. Demain, inshallah ta'ala, essaye de téléphoner entre 1h de l'après-midi et 2h de l'après-midi, inshallah. Non. Alhamdoulillah, tafadlal. Wafik.
Salam alaykoum, cher. Dans les coutumes maghrébines, il est dit que la femme qui perd son époux, donc qui devient veuve, doit se remarier avec le frère du défunt, du mari décédé. Est-ce que cela trouve son fondement dans l'islam? Barakallahu fik, cher.
Il est possible en islam que lorsque la femme meurt, pardon, que lorsque la femme perd son mari, il est possible, je dis bien il est possible, j'ai pas dit il est obligé, il est possible que le frère de son mari se remarie avec elle. C'est peut-être même mieux dans le sens où, yani, ses enfants, les enfants de la femme, il est leur oncle. Il est leur oncle. Naam. C'est pour ça que c'est en ce sens mieux. D'ailleurs, Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu, s'est marié avec qui? S'est marié avec Sulaym. S'est marié avec Sulaym, qui avait comme mari Talha, et elle a perdu. Donc son frère. Pardon. Abu Talha, naam. C'est son frère, Abu Talha, qui s'est marié avec Sulaym, qui avait perdu son mari, Abu Sulaym. Donc, Anas, radiyallahu ta'ala anhu, le mari de sa mère, Abu Talha, c'est son oncle. Mais, je dis bien mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, comme dans les coutumes maghrébines ou bien autres coutumes, qu'une femme se marie avec le frère de son, de qui? De son mari. Elle est libre. La femme en islam, quand elle perd son mari, elle est libre. Elle se marie avec celui qui lui plaît et remplit les conditions. Personne n'a le droit de la marier avec quiconque, que ce soit avec le frère de son mari, que ce soit avec son cousin à elle, que ce soit avec son voisin, que ce soit. Personne n'a le droit de la marier si elle ne dit pas j'ai accepté. Et si on la force à se marier, le mariage est nul. Tant qu'elles ne disent pas, j'ai consenti et j'ai accepté ce mariage. Non. Moi, si j'étais une femme et on me marierait de force, je ferais tout mon possible pour qu'il n'y ait pas, pour que ce mariage n'ait pas lieu. Car il m'est impossible de m'approcher de quelqu'un que je n'aime pas et que je déteste. Je ferais tout mon possible, quitte à ce qu'on me prenne en prison, je ne sais pas où. Et je ne me marie pas avec une personne que je n'accepte pas, surtout si je la déteste, par exemple, et je la connais. Naam. Tafadhal, inshallah ta'ala. Salama 57. Tafadhali. Naam, c'est très grave de se marier avec une personne qu'on n'aime
Salam alaykoum wa rahmatullah. Une sœur souhaitant être anonyme demande. Je suis dans la dernière Aïda, entre parenthèses, troisième divorce, et je suis chez mes parents. Ai-je le droit d'aller visiter des sœurs et de dormir au moins une fois chez l'une de ces sœurs à cause de la distance qui est trop loin et pour ne pas rentrer tard? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La femme devrait faire, la sœur qui nous demande de vous appeler demande si c'est l'heure du Koweït ou l'heure de France. L'heure de France. L'heure de France. Attendez, attendez, je vérifie. Le Asr chez nous, c'est 2h, 2h30. Et la salat se termine à 3h. Donc, 1h chez vous. Ça, appelle-moi, inshallah ta'ala, entre 1h et quart, entre 13h et quart en France et 14h en France, c'est-à-dire ici, 2h après. Naam, appelle-moi, inshallah, entre 13h et quart chez vous et 14h. Je disais que la femme doit faire la différence entre elle et dans la Ida, entre la Ida et l'Ihdad. Naam. La idda et l'ihdad. L'ihdad, c'est quand la femme perd son mari. Quand elle le perd, elle ne peut pas passer la nuit chez une personne ni sortir dans la rue si elle n'a pas quoi? Elle n'a pas les. Elle n'a pas une excuse valable. Naam. Quant à celle qui est divorcée, c'est la idda, c'est autre chose. C'est pour ça qu'Inch'Allah Ta'ala, il lui est permis, comme elle dit elle, au moins une fois, de passer la nuit chez une de ses sœurs. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Naam. Dalila, tafadhali.
Dalila, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Tapez 1 si vous êtes là. Sinon, on passe à Oumamina, Inch'Allah. Naam. Tafadhali, Inch'Allah. Naam, Dalila. Mettez votre question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis une convertie et mariée à la mosquée depuis plusieurs années. Je voudrais le faire à la mairie. Je me dis que s'il m'arrive quelque chose, mon mari n'aura rien à dire concernant l'enterrement. J'ai lu un avis interdisant de porter le nom de son mari. Donc la question, est-il permis à la femme, une fois mariée, de changer son nom de famille et de prendre celui de son époux en Occident? Et la réponse qui a été donnée à cette question, ceci n'est pas permis, la yajuz, l'appartenance est à un autre que le père est interdit. Haram en islam. Tfadal shir, Inch'Allah. Ah, enfin, c'est pas encore terminé. Mais shir, si vous voulez que je relis toute la question, dites-le moi, Inch'Allah. Donc je voudrais savoir si je peux porter le nom de mon mari seulement ou alors celui de mon père mécréant suivi de celui de mon mari afin que l'on tienne plus compte des droits de mon mari s'il m'arrive quelque chose. A'ouzoubillah. Est-ce qu'il y a une divergence là-dessus? Est-ce que c'est le même jugement pour les convertis? Cher, vous êtes là, Inch'Allah? Dites-moi si vous voulez que je relis ou si c'est bon. J'ai pas compris, cher.
Je veux pas.
Naam. Donc je relis, Inch'Allah. Naam. Salamu alaykum wa rahmatullah. Je suis une convertie et mariée à la mosquée depuis plusieurs années. Je voudrais le faire à la mairie. Je me dis que s'il m'arrive quelque chose, mon mari n'aura rien à dire concernant l'enterrement. J'ai lu un avis interdisant de porter le nom de son mari. Donc cet avis, c'est la question. Est-il permis à la femme, une fois mariée, de changer son nom de famille et de prendre celui de son époux en Occident? La réponse qui a été donnée, ceci n'est pas permis. La yajuz, l'appartenance à un autre que le père est interdit, haram en islam. C'est Cheikh Salih al-Fawzan. Donc je voudrais savoir si je peux porter le nom de mon mari seulement ou alors celui de mon père mécréant suivi de celui de mon mari afin que l'on tienne plus compte des droits de mon mari s'il m'arrive quelque chose à Audoubillah. Est-ce qu'il y a divergence là-dessus? Est-ce que c'est le même jugement pour les convertis? Ma mère serait capable de m'enterrer avec mon père chrétien et de me faire une messe à l'église.
طيب. Dalila dit que ma mère serait capable de monter avec mon père chrétien et de me faire une messe à l'église. Dans quel cas? Non, parce que j'ai pas bien compris. Dans quel cas ou là comment faire pour que ta mère ne puisse pas t'enterrer avec le chrétien ni faire une messe à l'église? J'attends la réponse. Dans quel cas, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle ne puisse pas faire cela? Yani, si elle se marie à la mairie et porte le nom, si elle se marie à la mairie et porte le nom de son mari, elle risque de l'enterrer avec le père chrétien. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça? Non, ma mère me considère même pas comme mariée. Wallahi, ana wasmak courage, j'ai un copain. Ça, Muslim, alhamdoulilah, si tu peux prendre le micro, j'ai pas bien compris, essaie de m'expliquer un peu. J'ai pas compris, prends le micro. Je vis pas avec vous en France, donc il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas facilement. خذ الميكرو ان شاء الله.
يعني لا سœur elle demande si par exemple demain elle décède, يعني par rapport à l'état français etc. son mari vu qu'il n'est pas marié sur les papiers etc. il n'a pas les droits qu'un mari marié. Et pour sa mère, يعني elle n'est pas mariée. C'est vraiment juste un ami comme ça. Donc elle, la seule solution qu'elle a fait des recherches, يعني elle a fait des recherches, et la seule solution, si demain elle meurt et qu'elle soit enterrée selon les rites de l'islam, يعني il faut qu'elle soit mariée à la mairie et qu'elle porte le nom de son mari. Donc voilà, elle voudrait savoir, comme c'est une personne qui est convertie, est-ce que son contexte, il sort de la fatwa qu'elle a mis juste au-dessus. Est-ce que vous avez compris, cher?
Naam, j'ai bien compris. Est-ce que maintenant, c'est moi qui pose des questions, est-ce que dans la mairie, ou là, la mairie, quand elle se marie, elle peut juste ajouter le nom de son mari, mais ne pas prendre le nom du mari? En Algérie, quand une femme se marie, on lui écrit sur son carnet de famille, ce qu'on appelle livre de famille, Madame X, avec le nom de son père, épouse de X, avec le nom du mari. Naam, est-ce que ça se fait aussi ça en France? Naam, si ça se fait, alors qu'elle fasse ça. Naam, si c'est ça, c'est Alhamdoulilah. Madame X, c'est-à-dire le nom du père, Naam, le nom de son père, ensuite, épouse de X, épouse de Monsieur X, Naam, qui est musulman. Donc, si c'est comme ça, Alhamdulillah, il n'y a aucun problème à cela. Bi'idnillah Azza wa Jal. Om Dalila, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ça le problème? Madame X, je voulais savoir, Madame X, Y, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame X, Y? Naam, Madame, le nom du père. Femme de Y, épouse de Y. Exemple, Madame Dupont-Durand. Naam. Madame Dupont-Durand. Épouse de Monsieur Mohamed Ali. C'est pas Mohamed Ali le boxeur, hein? Quelqu'un que je connais pas. Naam. Voilà. Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça. Bi'idna Azza wa Jal. J'ai choisi Mohamed Ali. J'ai pas dit, j'allais dire Mohamed Abu Abdillah. Si vous allez dire Abu Abdillah, c'est le cheikh et Mohamed, c'est le cheikh. Alors j'ai sauté, je suis allé loin. Mohamed Ali. Taïb, c'est à qui le tour, Inch'Allah ta'ala? Fiki barakallah. Ismaïl, c'est à qui le tour? Amina, tafadlali. Cheikh Ammar Medine, salam alaikum. Si tu es là, écris numéro 1. Cheikh Ammar, si tu es là, écris numéro 1. طيب أم أمينة يتولى إن شاء الله تفضلي جاتون طريق بانس sinon dans la quelqu'un qui n'a pas de point rouge pour la poster facilement.
Donnez la moi en PV إن شاء الله أم أمينة. Car la question doit être trop longue, c'est pour ça qu'elle ne passe pas sur la ronde. Et je rappelle que le cheikh avait dit qu'il terminait à minuit, et là il est 1 heure chez lui. Yanni, ça fait 1 heure de retard. 11 heures ici en France, 1 heure au Koweït. Mouamina, copiez la question et envoyez-la moi en PV, Inch'Allah.
Naam, je le cherche d'abord, si je le trouve. Non, je ne le vois pas. Si je le trouve, je vais le débloquer. Est-ce que quelqu'un voit où est Ammar Medine? Est-ce que quelqu'un le voit? Moi, je ne le vois pas. Est-ce que quelqu'un le voit? Est-ce que vous voyez avec moi dans la liste? Non, il n'est plus là. Je ne le vois pas. Il n'est pas là, non. Taïb. Ma soeur Om Amina, est-ce que Inch'Allah Ta'ala est prête la question? Je voulais donner la parole à Ammar. Je me suis dit que peut-être il voulait faire une annonce. J'ai dit peut-être il a une annonce à faire. Non, pour ses doros, etc. C'est pour ça que je voulais lui donner le mot. Tafadhal.
Salam alaykoum wa rahmatullah. Comment fait-on si les témoins meurent? Et par ailleurs, peut-on utiliser les méthodes de contraception pilule, non pas par raison de santé, mais pour organiser ses grossesses, entre parenthèses, par rapport à ses moyens de vie, et non pas dans l'intention de limiter la création et l'avortement, est-il permis en dessous de 40 jours? On m'a dit qu'il y avait différentes opinions, que c'est un sujet plus ou moins complexe. Mais on ne m'a pas donné de réponse. Jazakumullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Comment fait-on si les témoins meurent? Et par ailleurs, peut-on utiliser les méthodes de contraception, entre parenthèses pilule, non pas par raison de santé, mais pour organiser ses grossesses, entre parenthèses par rapport à ses moyens de vie, et non pas dans l'intention de limiter la création? Et l'avortement est-il permis en dessous de 40 jours? On m'a dit qu'il y avait différentes opinions, que c'est un sujet plus ou moins complexe. Mais on ne m'a pas donné de réponse. Jazakumullah.
Salam alaikum. Premièrement, la sœur a posé deux ou trois questions. Non. Ensuite, je ne comprends pas que ça veut dire comment fait-on si les témoins meurent. Je n'ai pas compris. Elle parle de quoi? Non. Comment fait-on si les témoins meurent? Elle dit, laissons-la, inshallah, jusqu'à ce que je la comprenne. Peut-on utiliser les méthodes contraceptives pilules, non pas pour des raisons de santé, pour organiser des grossesses? Non. On peut, inshallah ta'ala, utiliser les pilules pour organiser les grossesses, à condition que les pilules soient du genre qui ne fassent pas mal. À condition que ça soit avec l'avis du médecin et que ça soit lui qui les choisit. Et certains ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamo, a dit que pour moi les pilules sont interdites. C'est lui qui a dit. Il a dit, car des médecins ont reconnu qu'elles font vraiment mal. Des médecins ont reconnu qu'elles font vraiment mal. Donc moi je dis que la pilule en elle-même n'est pas interdite, mais si elle fait mal, elle est interdite. Car vous savez que des fois, et la plupart du temps, elle donne aux femmes ce qu'on appelle les varices. Elle donne des varices, dans les pieds, dans les cuisses, etc. Et c'est quoi ensuite? Est-il permis l'avortement? Est-il permis cette 40 jours, comme on dit? Non, pour l'avortement, il y a d'abord l'avortement si l'enfant est de zina et l'avortement si l'enfant est halal. Pour différencier entre les deux cas. Ensuite, l'avortement en général, dans les premiers 40 jours, il est permis dans un besoin. Et du 40e jour au 4e mois, juste un jour avant le 4e mois, il est permis dans la daroura, dans un grand, grand besoin. Vraiment une daroura. Et après l'insufflement de l'âme, après le 4e mois, il est vraiment, vraiment interdit. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah est du genre qui dit, même si la femme doit mourir, elle n'avorte pas. Elle meurt et lui, il vit. Il a dit, il n'y a pas de raison pour que lui, il meurt et elle vit. Il a dit, pourquoi cette injustice? Alors, si elle doit mourir, elle meurt et lui, il vit. Tellement c'est difficile et c'est très grave l'avortement après le 4e mois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? A insufflé l'âme. Mais malgré cela, je dis que certains ont permis, quand c'est vraiment, vraiment grave et qu'ils savent que la femme va mourir, certains ont permis pour que la mère ne meure pas, qu'elle avorte. Ça aussi, c'est un avis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. J'ai dépassé vraiment mon heure. Ammar Medine, si tu as quelque chose, Allah ta'ala, en ce qui concerne ton programme, à le dire, tafadhal, je te donne le micro. Mon prochain cours, c'est après-demain, inshallah ta'ala, lundi, dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment fait-on quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment fait-on? J'ai pas compris. Comment fait-on quoi? Tafadhal Ammar, le temps que je comprenne la question. Tafadhal.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, j'ai pris le micro parce que j'ai compris ce qu'elle veut dire la sœur. Yannis, si elle se marie par exemple aujourd'hui, il y a les témoins et par exemple en sortant de la salle où ils se sont mariés, tous les témoins ils meurent. Yannis, comment ils vont dire qu'ils se sont bien mariés et qu'il a bien été validé, qu'il y avait des témoins ce jour-là. Voilà, barakallahu fi cher.
Barakallah. Elle cherche des gens qui ont entendu les témoins dire que cette femme s'est mariée avec X. Et elle cherche deux personnes qui ont entendu cela et qui vont témoigner à la place des deux personnes qui sont mortes. Ils vont prendre, yani, la relève dans le témoignage. Ça s'appelle la relève dans le témoignage. Ils vont jurer et témoigner à la place des autres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les morts, ils les ont entendus dire, bien entendu dire leurs enfants, leurs fils, et comme ça, que X était marié avec telle personne. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Ammar Medine, est-ce que tu es là, Ammar? Si tu es là, écris numéro 1. Ammar, si tu es là, écris numéro 1. Je pense que le frère Ammar n'est pas avec nous. Naam. Je pense que le frère Ammar n'est pas avec nous. Et il est possible que il soit bloqué, comme il est possible que ce soit pas lui qui est connecté. Il est possible que une autre personne de sa famille soit connectée. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, à lundi. Et demain, vous avez cours, je crois, avec Ammar. Allah ta'ala alam. Si c'est demain ou si c'est mardi. Qu'est-ce que tu as dit, Ismaël? C'est quand le cours avec Ammar? C'est lundi et c'est demain ou mardi? Pour que je. Hein, pour que je. Mardi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, vous avez rendez-vous avec lui mardi à 20h. Et avec moi, Inch'Allah Ta'ala, lundi à 19h. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien, Inch'Allah Ta'ala, d'ici à ce jour. Salam.